exercice. Dans la lumière. Après l'exercice dans le feu, cet exercice dans la lumière. Parce qu'il faut mélanger le feu et l'eau. Oh, il y en a plus de 15, ils sont là, ils sont allés au pied de l'escalier. Alors, vous avez donc étape, je ne sais pas si vous arriverez à le trouver, mais c'est exactement, on peut dire au milieu, quoi. Au milieu, vous allez arriver à l'étape 3 de la guérison des ténèbres.
C'est 3 ou 11, c'est l'étape 3.
Étape 11 sur les 19 et 3 du PPP 2.
Ah, c'est le PPP 2.
L'étape 10, mais ça va, il faut se repérer en allant à l'étape 11.
L'étape 11, alors.
La troisième étape pour la vie contemplative de lumière. Dans le 3, donc puissance de vie spirituelle.
Le titre, qu'est-ce que c'est? C'est juste la étape 3 de la guérison de ténèbres. Entrée spirituelle alors que tu es rappelé.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est ici. Le goût sera.
Quand on fait des petits moments d'arrêt qui en général font 3 jours et demi chacun, on en fait 7 de suite. C'est un truc, on fait ça sur 9 mois à peu près. Et donc on prend, et à la fois suivante, on refait, on reprend d'autres pages que celles qui avaient été faites dans une autre précédente. Mais à la 7e, on a tout fait. On pioche ici, on pioche là, on pioche là. Oui, un peu ça. Puis petit à petit, du coup, un petit coup dans le cœur divin, un petit coup dans la lumière, et un petit coup dans le temps.
Je ne trouve pas parce que c'est l'ancien, moi c'est une autre.
C'est
une autre.
C'est une autre.
Il y a tout ici. Là.
Oui, mais le Louvre aussi. Ça ne correspond pas à votre.
C'est vrai, l'école est loin, mais c'est la même taxe. Il est en plus gros, c'est trop.
Est-ce que je peux faire celui-là? Parce que les lettres sont plus grandes. Attention.
D'accord. La logothérapie, qui est une espèce de. Spirituel au lieu de rentrer, de s'enfoncer dans une thérapie analytique. Donc Viktor Frankl était médecin, et jeune médecin, et il s'est retrouvé à Auschwitz. Et là, à Auschwitz, en tant que médecin, il a vu que dans la situation limite, que ce soit les geôliers ou les victimes, les bourreaux ou les autres, les uns comme les autres, étaient à égalité sur un plan. C'est qu'en situation limite, ou bien ils devenaient, tous les mécanismes de défense tombaient par terre, et ils devenaient ou comme des bêtes, ou comme des dieux. Que ce soit un bourreau, que ce soit. Et donc il a essayé de comprendre pourquoi, et il a vu que dans la situation limite où les mécanismes de défense tombent, des choses qui montent à la surface, qui fait que ça y est, tu es comme un homme debout, au milieu, dans un monde où tout s'effondre. Et les autres au contraire, ils paraissaient bien. Leur éthique et tout ça deviennent comme des bêtes. Alors, il dit, en tout homme, il y a la possibilité de faire remonter à la surface, dans la lumière, la lumière. Et c'est comme ça qu'est née la logothérapie. Tu comptes donc que la thérapie analytique, c'est donc la guérison, les cures analytiques, psy, etc., c'était contribuer à faire que les hommes non seulement deviennent sans défense, mais en plus deviennent comme des bêtes. Donc il fallait faire ressurgir la lumière spirituelle, c'est normal. Parce que alors, d'où la naissance de cette prise de conscience et émergence de la lumière dans et à partir de la lumière de chacun. Ce chacun est lumière. tout semble être à la nuit, alors la lumière resplendit. Il faut contempler cette lumière et avoir cette intelligence de la lumière. C'est ça, Victor Frankl. Hein? Logothérapie. C'est le fond du discours de Benoît XVI quand il est venu à Paris pour Bernardin. Tout son fond de discours, c'était ça. C'était verbothérapie, si je puis dire, verbo-composable. Tous les gens qui étaient là, qui étaient tous psy-occupes, ils auraient été mouchés, quoi, c'est-à-dire. Voilà. Le verbe illumine tout homme dans l'instant même où il vient dans ce monde, dans l'existence. Dieu nous crée comme une capacité de toucher la lumière à partir de la nuit de notre néant, de notre venue à l'existence. Une lumière resplendit et elle fait notre intellect agent. Ce qu'on appelle l'intellect agent, ce qui évidemment pas un mot très joli. Pas beau comme mot, c'est pas très poétique, mais bon. Mais on est une source de lumière. Et cette source de lumière, c'est une capacité à pénétrer au-delà de nous et de tout, de la lumière, dans toute lumière, hein, de la toucher, de la pénétrer, de la contempler, de l'assimiler. Et de devenir sa vie. Alors, tout au long d'une vie, de la conception, la naissance, etc., l'enfance, on traverse et on s'aperçoit que cette capacité de l'intellect agent, cette capacité contemplative, elle a émergé une fois de temps en temps. Même si elle était bien fou. Bien refoulé, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous aussi, bien sûr, nous sommes l'incarnation de la lumière. Alors, comme c'est une incarnation, le corps, la matière vivante de notre corps originel, est l'incarnation de cette lumière, d'où la nature même de la vie contemplative qui est de voir dans la nuit. Et si elle ne voit, c'est qu'à travers la nuit, dans la lumière. Alors, à Viktor Frankl, donc, va mettre à jour par toutes sortes de prières, disons, naturelles, de contemplation native, de remettre à jour ce fait qu'on se rend compte qu'on est l'incarnation de la lumière. Et donc, que cette lumière est spirituelle, hein, c'est le logos. Et que nous sommes lumière née de la lumière, et de ce point de vue-là, on est dans la chair, la même chose que la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, mais ça, c'est nous qui allons rajouter ça. Puisque nous allons faire une verbo de matos surnaturel. Alors ce qui empêche tout ça, ce qui fait que par contre, dans le contraire, le mouvement contraire de la lumière, de l'intelligence humaine, de la vision de la vérité et l'identification contemplative à la vérité dans son centre, dans son noyau de lumière, et dans la l'unité des deux, on trouve notre pleine dignité. Le contraire de ça, c'est quand cette lumière s'incarne et que l'incarnation de cette lumière va se laisser enfoncer dans une nuit psychique, une nuit aussi ténébreuse et enfin une obscurité coupable, l'amour du mensonge. Voilà, donc Victor Frankl arrive au milieu de tout ça. Quelles sont les deux grandes couches qui font que une congélation, une obstruction de la vie contemplative. Cette lumière qui est là. En fait, l'intellect, un jour, c'est une puissance de vie qui passe à travers le corps et qui a besoin du corps pour s'exprimer et surtout pas du cerveau. Mais le cerveau fait partie du corps. Mais la lumière n'est pas la lumière de l'intellect. La puissance spirituelle a besoin du corps, mais pas du cerveau. Mais pourtant, elle passe à travers aussi le cerveau à certains moments, mais elle n'est pas nécessaire. Elle passe par cela. Donc la puissance de raison, comme on dit, l'intelligence, comme on en conçoit ordinairement, c'est-à-dire de manière fausse, elle passe par la compréhension. Elle passe à travers notre cerveau, elle passe à travers notre réflexion, elle passe à travers notre méditation. Mais cette lumière-là, elle est ténébreuse, en ce sens qu'elle ne fait jamais accéder à la lumière contemplative elle-même. Pourquoi ? Parce que le cerveau est le lieu de l'intellect possible, mais pas de l'intellect pur, l'intellect agent. Alors ce qui fait que nous sommes au-dessus du tourbillon des réflexions possibles, des puissances, de l'intellect possible, cérébral, etc., donc de l'esclavage, des circulations neuroniques, hein, c'est précisément l'intellect agent. Mais l'intellect agent, c'est une lumière, elle existe, cette intelligence. Le philosophe, en philosophie par exemple, on sait, on est capable de toucher, de prouver l'existence de l'intellect agent avant l'apparition de la réflexion, de la compréhension, de la méditation cérébrale, enfin, de l'intellect possible. Bien avant, il y a l'intelligence qui voit. Cette intelligence qui voit fait la dignité de l'être humain. C'est la plus grande dignité de l'être humain. La plus grande dignité de l'être humain, c'est pas le cœur. Et la plus grande dignité de l'être humain, c'est pas la liberté. La plus grande dignité de l'être humain, c'est qu'il est lumière. Parce que c'est la seule de ces trois puissances spirituelles dans l'homme qui la rend semblable en proportionnalité, en analogie propre, avec la lumière née de la lumière. Tandis que le cœur divin est une participation, c'est pas un engendrement, c'est pas une génération, pas une conception. Et la liberté, c'est aussi une participation et une puissance. Parce que la lumière, c'est pour ça d'ailleurs qu'au ciel, quand on rentre au-delà du voile de la vision, quand le dernier voile ne sépare la vision de l'intellect, se déchire, hop, cette lumière de gloire pénètre l'intellect agent. faire entrer dans la grande dignité de la sainteté du Saint des Saints, du Père dans le Verbe de Dieu. Sur la terre, ce qui est le plus grand, ce qui est le plus fort, ce qui est le plus important, c'est la charité. L'amour augmente, s'intensifie, jusqu'à être en affinité possible avec la charité inépuisable et inconditionnelle, divine du Saint des Saints, du cœur sacré de Jésus glorifié. Bon. Et puis une fois qu'on est au ciel, l'amour ne peut plus augmenter. Une fois que la lumière de gloire s'est saisie de nous, le degré d'intensité de charité surnaturelle qui est en nous ne peut plus augmenter. C'est uniquement à cause de la lumière glorieuse dans notre intellect agent que nous pénétrons et du coup nous voyons plus, davantage, plus profondément, plus intensément, plus extensivement la gloire et la victoire de l'amour, de lumière, de Dieu dans la lumière, que du coup à cause de ça notre amour va augmenter en extension mais pas en intensité. Pourquoi? Parce que la plus grande dignité de l'homme c'est la lumière, c'est l'intelligence. C'est pour ça que le démon est un menteur et le péché obscurcit. Il obscurcit le corps, il obscurcit l'esprit, il obscurcit l'âme. Il obscurcit l'âme par le sentiment de culpabilité. Il obscurcit l'esprit par la conscience de culpabilité. Et il obscurcit le corps dans le feu de l'enfer. Alors c'est pour ça que quand on fait une petite retraite en pneumatosphère naturelle, c'est très important de reprendre possession de soi-même dans la lumière. Nous avons une vie contemplative. Et bien sûr, on peut par exemple faire oraison auprès. Méditer, saisir, toucher des choses extraordinaires, du point de vue de la vérité. Mais si notre lumière n'est pas ouverte, le centre de gravité de notre appréhension va être intérieur à nous-mêmes. Toujours pareil, c'est comme le cœur quelque part, hein, mais c'est de manière différente. Et du coup, on ne pourra pas décoller de la deuxième demeure. Mais si nous sommes dans le centre de gravité de la lumière, celle qui dépasse ici le corps, parce que notre intellect agent est en vaste communicant immédiat avec tous les intellects agents des créatures spirituelles créées par Dieu. Saint Augustin, Saint Thomas aussi, d'ailleurs, se pose la question, est-ce qu'il y a un seul intellect agent pour toutes les créatures spirituelles créées par Dieu, ou est-ce que chacun est en lui-même puissance et qu'il possède dans sa substance l'intellect agent. Pourquoi? Parce que c'est tellement semblable qu'on peut se poser la question. On s'est posé la question. Aristote s'est posé la question. C'est par l'expérience qu'on voit que chacun est lumière. À lui tout seul, mais il a à ce moment-là une similitude d'engendrement dans la conception de ce qu'il est dans la lumière, qui est quasi parfaite. Et donc, la lumière qui est nous, notre intelligence, si vous préférez, n'a rien à voir avec ce que nous comprenons. Donc ce que nous comprenons doit laisser place à la lumière contemplative pour que nous puissions respirer dans notre lumière originelle, puisque de la nuit et du néant, Dieu nous a créés. Et d'un seul coup, nous avons été lumière et nous avons vu reste quelques dizaines d'années après, nous continuons à être lumière et nous continuons de voir, mais le bruit de notre cerveau et de notre intellect possible et de notre sentiment de culpabilité et des conséquences négatives de la conscience de culpabilité est tellement grand que du coup on n'entend plus le bruissement extraordinaire de la lumière pure de notre vie contemplative. Alors il faut retrouver la liberté, la dignité contemplative. C'est le génie de la vie de chacun. C'est si je ne vois pas la vérité de cette lumière, comment mon cœur divin pourra-t-il être à moi dans la lumière? Et comment la lumière pourra-elle être comme le catalyseur d'un amour plus grand? Pourquoi il faut faire revenir la vérité dans l'amour et l'amour dans la vérité, le verbe dans l'amour et l'amour dans le verbe. Et ça, ça fait partie, comme dit Viktor Frankl, de la puissance de l'homme. Ça va être au-dessus de l'âme. Alors vous verrez quand vous ferez les exercices à d'autres moments qu'il y a faut se dégager bien sûr des plus grosses pierres. Le gros du gros, le tralala, le tralala. C'est nous la maison, monsieur. C'est pour faire plus joli. Va faire tralala. Et n'use pas trop de papier comme bonnet. Laisse-en pour les autres. Mais maman, je vais faire tralala. D'accord. Tralala. Toujours en secret qu'on fait tralala. Sentiment de culpabilité. Quand ça se met en réalité, il y a cette première couche, quoi. Il y a dans le sentiment de culpabilité des choses très négatives. Mais il y a aussi dans le sentiment de culpabilité qui ne détruit pas l'intelligence et ni l'intellect de la journée, qui fait qu'on ne choisit plus la lumière. Il y a dans le sentiment de culpabilité aussi des choses très positives. Alors, pour ça qu'avec, justement, dans la logothérapie, Viktor Frankl, il y a toutes sortes d'étapes pour dégager les conséquences négatives du sentiment de culpabilité et laisser librement s'opérer les conséquences positives du sentiment de culpabilité. Alors que habituellement, si on n'est pas très contemplatif, c'est le contraire qui se passe. C'est les conséquences négatives du sentiment de culpabilité. Alors, et on fait tralala. Alors, avec la logothérapie, on repart avec, grâce au sentiment de culpabilité, dans les ouvertures positives du sentiment de culpabilité. Des exercices merveilleux pour ça. Étape 1 de la logothérapie et 2 de la logothérapie. Étape 3, il y a des versants dans la conscience de culpabilité, ce qui est tout à fait autre chose que le sentiment de culpabilité. Il y a des inconvénients, une couche beaucoup plus terrible que le simple tralala habituel des gens. Leur mécanisme de défense et tout ça. C'est plus grave parce que dans la conscience de culpabilité, par exemple, vous voyez, je vais à Auschwitz, il y a cette horreur. Et je cherche à sauver ma peau. Voilà. Et je me rends compte que ça va pas, ma réaction. Alors, comme Maximilien Kolb, j'émerge. Et au milieu de cette... je vais au-delà de la nuit, de l'angoisse, de la peur, de l'horreur. Et j'ouvre le temps de la lumière. Et je regarde ce qui se passe. Et puis je vois que deux jours après, trois jours après, quatre jours après, je suis retombé dans des réactions qui ne sont pas très dignes. À cause d'un détournement. Et ça, c'est ce qu'on appelle les mécanismes spirituels de la conscience de culpabilité, qui elle-même va avoir effectivement des conséquences négatives bien plus dramatiques que celles de la sentiment de culpabilité. Mais il y aura également dans la conscience de culpabilité cette deuxième couche qui est une gangue terrible, qui endurcit le cœur spirituel dans la lumière, une possibilité de faire passer des versants positifs de la conscience de culpabilité. C'est la deuxième étape de la logothérapie de Frankel et Pillar. Du coup, après, on peut faire les exercices de la mise. Une fois qu'on est là, qu'on est dans les versants positifs du sentiment de culpabilité, puis les versants positifs de la conscience de culpabilité, et qu'on adhère dans la lumière, même si on n'est pas complètement, on n'a pas retrouvé complètement sa dignité, mais au moins on peut aspirer et regarder la lumière de la vérité partout où elle nous a pénétré et où nous l'avons pénétré pour la repénétrer à nouveau. À ce moment-là, toutes les dérives négatives du sentiment de culpabilité et toutes les dérives négatives de la conscience de culpabilité, comme par un miracle, glissent comme ça et nous sortons comme ça, comme une naissance hors des sentiments négatifs, du versant négatif du sentiment de culpabilité, du versant négatif de la conscience de culpabilité. Vous me suivez ça? Et c'est comme ça qu'avec une logothérapie de Viktor Frankl, on, en l'espace de quelques mois, il dit que finalement toutes les névroses et toutes les psychoses viennent d'une névrose noogénique, c'est-à-dire noos, c'est la nous. La nous, c'est l'intelligence pure de l'homme. Et comme on a des névroses spirituelles de lumière, c'est à cause de ça, voilà, que c'est la source de toutes les autres névroses et psychoses. Mais si on résout le problème de la névrose neurogénique d'elle-même, c'est comme si le nœud, la clé de voûte de la maladie spirituelle de l'âme était ouvert, alors du coup, toute la voûte de l'homme, de la paralysie contemplative s'effondre. Alors pas la peine, c'est exactement la même chose que pour le cœur spirituel. Pas besoin de s'intéresser aux mécanismes pour faire sauter les névroses ou pour faire sauter les psychoses. En plus, on nous déclare de tous les côtés que les versants négatifs de la conscience de culpabilité, à savoir les psychoses, sont inguérissables. Alors, il n'y a plus que les chimiques. Alors, on est drôlement bien avancé. Alors, heureusement, avec Viktor Frankl, on sort. Mais regardez bien, ça fait quand même. Je dis Viktor Frankl parce que ça fait bien, vous savez dire, voilà, mais c'est pas. Ça fait chic, hein, de faire partie des tiens, voilà. Évidemment que dans entrailles de notre intelligence contemplative pure dans une foi ardente et vive sous le souffle de l'esprit d'intelligence et de sagesse. On fait une logothérapie pneumatosonatiale. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que c'est depuis 1950 seulement que ces principes, qui sont déjà établis bien sûr dans les exercices spirituels du christianisme depuis longtemps, sont retrouvés pas besoin de ça comme confirmation, mais pourtant, bon, c'est vrai, le christianisme est toujours un peu fasciné par l'arrogance de l'athéisme. Alors, donc on a oublié, à cause de l'arrogance de l'athéisme, on a quand même oublié qu'il y avait le logos. Voilà, alors. Donc ça, c'est pour une petite mise en route générale. Donc, quand vous ferez des. Comme ça, vous savez. Étape 3, donc la guérison des ténèbres. C'est toujours. Faut toujours recommencer, toujours par l'amour. Se reprendre dans la vérité et la lumière. Et puis y rester. Et, ou alors de là, aller à nouveau dans une étape supérieure de l'ascension en pneumatosonatural du cœur ou de la memoria dei, de notre liberté dans l'ordre du temps. Hein? Ou dans la vie contemplative, ça dépend, c'est comme vous voulez, selon. Puisque c'est conçu ça pour être fait domicile. À un moment donné, il n'y aura plus de berger pour ça. Donc, on va se débrouiller. Avec Jésus comme berger. Bon. Alors voilà. Donc, c'est pour ça, moi, ce que je vous propose, c'est que vous êtes à la page étape 3 de la guérison des ténèbres. Entrée spirituelle en logothérapie. Une méditation sur la vérité de notre trouble spirituel de lumière. Menacé d'auto-réprobation dans les ravages anarchiques d'une conscience de culpabilité détournée de sa phase constructive. Thérapie par l'anamnèse. Je répète, agapé, thérapie à domicile. Étape 11, c'est-à-dire étape 3 de la guérison des ténèbres. Entrée spirituelle en logothérapie. Vous étiez tous à la page tout à l'heure, donc oui. Si vous l'avez perdu, c'est pas de ma faute. L'école est loin. Bon. Vous l'avez perdu aussi, vous. Faut qu'on vous donne des images pour mettre. Peut-être que vous pouvez aller donner la lumière, vous serez moins handicapé.
Oui, j'ai une petite lettre.
Ah, ça va mieux. Peut-être moins facilement les pattes, peut-être ça. Vous savez, vous avez une technique quand vous lisez un livre. Donc, comme ça, vous allez. Tiens, vous écrivez la page, voilà, j'étais là. Comme ça, vous retrouvez sans problème.
Le 14 et après, c'est après. C'est là.
Tiens, faites comme ça, comme quand vous étiez petite. Faites comme la page, faites comme ça, j'étais là.
Ça ne veut pas l'apprendre. Hein.
Ou alors, vous mettez une image là.
Oui, une image, c'est bien. Tu veux une image?
Sinon, vous êtes. Non, laissez allumer. Bah, attendez. On a tout ça dans la ténèbre. Alors vous êtes à cette page, vous avez bien mis un coin comme ça, là. Vous avez plié cette page pour ne pas la perdre.
Comme ça. Et maintenant j'ai vu qu'elle est à 3.
Donc vous pliez la page. Est-ce que vous avez plié la page? Non, elle n'a pas plié.
Non, parce qu'il n'est pas comme ça. Et pour le trier,
oui.
Je prends toujours un peu de terre. Je mets une petite bise de poule. Moi, j'avais déjà été à l'échelle. C'est un cadeau. C'est pour ça que...
Ça y est ?
Ça y est.
Ça vous retrouverait ?
Oui.
Très bien. Eh bien... C'est pas cette page-là qu'on va dire. La page avant. Non, pas après, la page avant. C'est loin à l'école. Hein. Vous voyez que la lumière est très, très, très loin.
C'est l'éditeur qui est là. Merci.
Et donc l'enseignement, c'est Memento pour page 11, pour Memento pour vivre le sentiment de culpabilité dans sa dimension positive. Le sentiment de culpabilité, c'est la source des névroses. Il y a des gens, vous voyez, extraordinaires, qui ont fait des sessions de retraite, machin, tout comme ça, des rencontres, des repas, tout ce que vous voulez. Vous voyez des gens qui disent toujours la même chose. Ça fait 30 fois que vous entendez leur bouche la même histoire. C'est ça une névrose, c'est une idée fixe. C'est une névrose, c'est toujours la même histoire. Est-ce que vous n'êtes pas surpris, vous, de temps en temps, de dire, de répéter toujours, hein, de répéter toujours la même histoire plusieurs fois? De répéter une chose, une histoire que vous trouvez intéressante, et vous la redites une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ou alors des comme ça, des clichés, etc. Ça ressort. Et ça revient. Et c'est reparti.
C'est presque la faute.
Ça, c'est une névrose.
Tu sais pas que tu fréquentes alors.
Donc après, premier exercice de gymnastique, de santé contemplative, ne jamais répéter deux fois la même chose.
D'accord. C'est dur pour les femmes, ça.
On peut le changer aussi.
Non, non.
C'est la névrose. Les gens névrosés, c'est pas agréable, des gens névrosés, vous savez. Parce que bon, bon ça vient tout, ça veut dire que j'ai commis des trucs qui sont pas belles, c'est pas beau ce que j'ai fait dans ma vie, alors dès que j'y pense. Pourquoi j'ai fait ça? Mais bien sûr, aussi, on va tellement. Hein, et on va tellement là, je me raccroche. On va tellement aussi fait ça. Alors on revient sur cette idée. C'est beaucoup plus facile d'être victime que d'être responsable dans la lumière. Alors c'est pour ça qu'on répète, on répète. Dès que vous répétez la même histoire, souvent les gens sont comme ça. C'est ce qui fait la grégarité des gens, quelquefois. Hein? Nous, on est quelquefois extrêmement grégaire de ce point de vue-là. La créativité dans la lumière. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est pas beau. Alors, sentiment de culpabilité, bon Dieu ne veut pas qu'on soit dans le sentiment de culpabilité. Jésus ne veut pas de sentiment de culpabilité. Surtout pas. C'est marrant, il a dit, ouais, l'église culpabilise. Tiens. Vous entendez ça comme une idée fixe, une propagande, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Jésus ne supporte pas le sentiment de culpabilité, puisqu'il faut être dans la lumière. C'est insupportable, les prêtres qui font les confessions, tout ça, par exemple. Sentiment de culpabilité que les uns supportent, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Ce qui fait d'ailleurs leur patience héroïque. C'est insupportable. Ils sont là pour faire sauter le sentiment de culpabilité. Que je suis une culpabilisée personne. C'est pas son truc. Alors, la conscience de culpabilité, c'est encore. Ouais. Bon. Écoutez, on va lire. Hein. Donc, quand vous faites d'abord, on commence toujours par un enseignement. Non. Quelquefois, quand vous faites des trucs de pneumatation, il y a un pupitre, alors il y a quelqu'un qui se lève, qui va au pupitre, et puis qui fait l'enseignement. Mais il lit l'enseignement. Il le lit, mais attention, il comprend ce qu'il lit. Hein. Et il ne découvre pas ce qu'il lit, hein. Il lit son enseignement. Ah, alors je commence et puis je vous propose de continuer après page 11. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres. Nous sommes cette merveille de sainteté pour laquelle Dieu s'est ébranlé pour devenir créateur. La relation d'amour de nos parents a rempli ce vase de merveilles autant qu'elle a pu. Et nous sommes inconsciemment restés en présence de cette merveille que nous sommes. Ce vase, cette capacité, cette ouverture, cette attente, ce désir d'amour infini rempli par Dieu à travers l'amour de notre Père, de notre Mère, mais aussi par Dieu lui-même, à travers des grâces actuelles dues à la prière que d'autres font pour nous, et à travers les sacrements pour les chrétiens comme le baptême, par exemple. Et même si nous sommes toujours insatisfaits, parce que nos parents, si saints qu'ils soient, ne peuvent remplir ce vase de la merveille que nous sommes dans la lumière, et à cause des limites des parents, mais aussi à cause du mal qui est dans le monde, à cause des maladies, à cause de tout cela. Par exemple, si notre mère tombe malade et ne peut pas s'occuper de nous, ben, ce n'est pas sa faute. Et Dieu le souffre lorsque j'en pâtis. Cette blessure de notre innocence ne relève pas du domaine du mal. Et nous devons nous aimer ainsi. Que notre innocence ait été crucifiée, c'est notre plus grande chance et notre appel à trouver cette béatitude de la victoire de l'amour et de la lumière surtout. Pour sortir de l'agressivité coupable, du sentiment de culpabilité, il faudra rentrer dans le regard de Dieu sur nous. Et dans le regard de Dieu sur les autres. Et oui, parce que dès que vous êtes dans le sentiment de culpabilité, des défis, le sentiment de culpabilité produit immédiatement, le sentiment de culpabilité, vous voyez ce que c'est, hein, c'est une espèce d'effondrement. Alors du coup, vous rebondissez en disant oui, c'est bon, Le sentiment de culpabilité se reconnaît à l'idée fixe, et aussi cette idée fixe est une espèce de. Est agressive. Elle reconquiert un terrain perdu, injustement d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle insiste comme un marteau piqueur. C'est pour ça, tous les psychologues le savent, mais sans motif, alors du coup, on accuse les parents. On accuse les parents, et puis voilà. Accuse les biens, prends un coussin, et prends un poignard, et dis ça, c'est mon père, ma mère, vas-y, sinon, on se sert du docteur, puisqu'on est pour faire le transfert. Mais une fois que c'est fait, après, ah, ça va mieux. Ça va mieux, mais est-ce que tu as résolu le problème? T'as pas résolu le problème. C'est pas pour autant dans la lumière. C'est pas parce que tu as tué l'autre que du coup tu ressuscites toi. Hein? C'est pour ça que. Voilà, que nos parents ne sont pas parfaits. Alléluia. Qu'ils étaient malades. Alléluia. Qu'ils aient été crucifiés dans leur puissance d'amour et de lumière. Alléluia. Puisque du coup, c'est à travers cette pauvreté qui est la leur que du coup jaillit de leurs enfants la lumière. C'est évident. C'est pour ça qu'il faut avoir ce regard de Dieu sur mes parents, ce regard de Dieu sur moi, dans ce regard de Dieu dans mes parents. Hein? Il faudra, pour sortir de l'agressivité coupable, du sentiment de culpabilité, rentrer dans le regard de Dieu sur nous et dans le regard de Dieu sur les autres. Marthe Robin répondait à ses souffrants. Mais non, ne dites pas que vous êtes indigne, ne dites pas que vous êtes impuissant, ne dites pas que vous ne pouvez pas, ne dites pas que vous êtes indigne parce que dans le Christ, notre dignité nous est révélée. Dans le Christ, notre dignité nous est redonnée. Notre innocence est toujours plus forte que la mort. Dieu est plus fort que nous et Dieu est présent dans le Christ. Donc pour un chrétien, tout ça, c'est parfaitement clair. Mais surtout, le manque à être rempli complètement et immédiatement, faudrait dire, d'amour infini dans cette innocence de lumière qui constitue cette soif de lumière, cette attente infinie d'amour dans la lumière, eh bien ce manque à être rempli de lumière, est-ce qu'il va toucher, enclencher en nous le désir d'être aimé autrement. Nous sommes dans les mains de Dieu au premier instant de notre conception. Notre personne est déjà constituée. Nous sommes complètement dans les mains de notre Créateur, directement liés à son amour infini, abandonnés totalement, substantiellement, vitalement, ontologiquement. C'est un abandon ontologique d'amour, ça a l'air compliqué ça. Nous sommes donc abandonnés dans une dépendance par rapport à Dieu et à l'unité de notre Père et notre Mère. La blessure de l'innocence va briser cet abandon ontologique de dépendance et va nous obliger à désirer. Heureusement qu'il y a cette brisure que je perçois dans le sentiment de culpabilité comme une blessure alors qu'elle est la condition de la lumière. Parce que la lumière nous fait dépasser forcément et nous-mêmes et la présence des parents et la présence du monde dans la présence créatrice de Dieu qui lui s'efface derrière ces trois obscurités pour faire apparaître de nous-mêmes cette lumière. S'il n'y avait pas cette obscurité triple, il n'y aurait pas de lumière, de possibilité à la lumière participer directement en similitude de Dieu, la possibilité d'émerger et de conduire notre vie, de voir quoi, qui est Dieu, qui nous sommes, hein, de voir ce que tu vois. Donc la blessure d'innocence va briser cet abandon ontologique de dépendance. C'est normal, s'il n'y avait pas de blessure, que nos parents étaient parfaits, et que l'invasion, et que notre invasion de Dieu et de nous en Dieu, de Dieu en Dieu dans la lumière était parfaite, bah, il n'y aurait plus l'émergence de notre vie contemplative. Notre émergence de vie contemplative vient de ce que, dès l'instant originel, premier instant de notre existence, vite, il y a cette nécessité de se dépasser dans la lumière. Si on était complètement dans la lumière, parce que les parents sont complètement dans la lumière, et que nous sommes complètement dans la lumière, et Dieu, dans sa lumière, complètement dans notre lumière, ben on y resterait, et on resterait dépendant de cette lumière. Ce serait du coup une lumière immanente. C'est une lumière fermée sur elle-même, ce ne serait pas une lumière spirituelle. Donc s'il y a une blessure, c'est formidable, parce que du coup, et il y a ce désir de lumière. Et ce désir de lumière engendre l'instant premier de la lumière. Ah, ben, est-ce que quelqu'un peut réexpliquer ça?
L'instant premier engendre l'instant premier de la lumière. Donc on se souvient.
On reproche toujours à nos parents pas avoir été à la hauteur. Hein. Ouais, c'est parce que je sais pas quoi. Ma mère, quand même, méchante, égoïste. Bon, d'accord, grands-parents, c'était pas mieux. On les aime quand même bien, donc on les justifie un peu pour culpabiliser les parents de nos parents. Très bien, on a toujours une destruction. Nos parents ne sont pas parfaits. Et la présence de Dieu dans la lumière n'est pas parfaite en nous dans le premier instant. Elle est parfaite dans le premier instant. Mais il nous laisse tout de suite, immédiatement, dans l'appel à la lumière. Et donc il y a un amour séparant, il y a une lumière séparée, immanente, mais transcendante. Et du coup, la lumière immanente se recueille dans la limite de l'incarnation de lumière. Et heureusement qu'il n'y a pas la plénitude de la lumière à cause des parents, ou grâce aux parents, parce que c'est grâce aux parents qu'il n'y a pas la plénitude de la lumière, et c'est grâce aussi à moi dans mes parents qu'il n'y a pas la plénitude de la lumière, et grâce à Dieu, il n'y a pas cette plénitude de la lumière dans la, justement, dans cette. Et du coup, ça crée en moi, dans le premier instant de mon existence, 9 mois avant la naissance, cette lumière participée de mon intellect agent, du coup, est obligée de fuir hors de soi pour chercher la lumière. Et l'intellect agent, du coup, est toujours au-dessus de moi, et passe à travers l'incarnation de la lumière que je suis dans mon corps originel, pour aller au-delà de la lumière. Et chercher la lumière dans le désir de la lumière. Et c'est comme ça que l'intelligence est née. S'il n'y avait pas d'imperfection chez les parents, il n'y aurait pas aucune dignité de l'homme. Donc si je reproche les imperfections, les limites, etc., pour me dédouaner de mon manque de dignité, c'est un mensonge. C'est le mensonge du sentiment de culpabilité. Il faut regarder Dieu comme Dieu voit, et dans la lumière de Dieu, et nos parents, ce que nous sommes, et ce que Dieu, comme il le voit dans le premier instant. Alors à ce moment-là, ça fait sauter, et ça fait venir l'aspect positif du sentiment de culpabilité. Grâce au sentiment de culpabilité, je suis obligé de reprendre conscience du regard de Dieu sur mes parents, du regard de Dieu sur moi, et mon regard dans le regard de Dieu de mes parents et de moi. Je suis obligé, et à ce moment-là, ça y est, grâce à ça, je retrouve le désir de la lumière. Il n'y a pas de désir de vie contemplative sans le versant positif du sentiment de culpabilité. Ça va mieux. De toute façon, c'est ce que je répète par voix orale, ce qui est marqué en écrit. Hein. Alors, c'est l'école est loin. La blessure de l'innocence, donc voilà pourquoi c'est écrit comme ça. La blessure de l'innocence va briser cet abandon ontologique. Mais si je ne dépends que de la lumière parce qu'elle est parfaite. Mais heureusement, comme cette lumière est imparfaite, du coup, ben, je ne dépends plus de la lumière de l'autre. Et je suis obligé de prendre possession de ma propre lumière. Et c'est comme ça que je nais à l'intelligence spirituelle de ma lumière. Oui, donc, si nous étions toujours dans cet abandon ontologique de dépendance, il n'y aurait plus de conquête, ni de mérite, ni de sagesse, ni de charité possible, ni d'amour. Charité, c'est dans le sens d'amour spirituel de la vérité et de la lumière. Cet abandon ontologique de dépendance est donc brisé dès le départ, et tant mieux. Ah, je n'aime pas être comme je suis. Je me sens mal en moi. Mais si tu peux aimer dans un état bien supérieur avec cela en toi, et à ce moment-là, tu ne gémis plus, tu ne murmures plus, tu ne bougonnes plus. Arrête-toi donc à cette blessure, reste silencieusement attentif au sens qui t'ouvre dans cette blessure au désir d'un au-delà du mal, pour se confier en t'offrant comme cela, pour retrouver ainsi la lumière de ton Père. Là, tu es dans la vérité. Mais si tu te plains dans le moi accusateur et l'exaspération accusatrice de l'autre, tu intensifies ton sentiment de culpabilité. Le silence est la spiritualité du Père. Hein? Joseph, c'était. Nous ne le voyons pas se plaindre ni protester. S'il est blessé, il ne discute pas. C'est sa joie, c'est sa vocation, sa sainteté. C'est à travers cela que le Christ va pouvoir faire resplendir la lumière, que les ténèbres ne pourront pas arrêter. Nous contemplons ce rôle de Joseph dans le silence et l'amour dans sa blessure d'innocence. Seul dans la Sainte Famille, à ne pas être plein de grâce, la plénitude reçue de lumière, dans son innocence dès le départ, il intègre le mystère de la rédemption dans la lumière. Marie et Jésus doivent obéir à cause de cela, Joseph. Eh oui, c'est sûr. Pureté et lumière doivent obéir à la justice des saints. Pureté, c'est Marie. Lumière, c'est Jésus, doivent obéir à la justice des saints. C'est Joseph, voyez. C'est... Allez, qu'est-ce qu'il continue à lire pour voir? Hors du sentiment de culpabilité, voilà, allez-y, ma chère Claire Marie, là, parce qu'avec vous, moi, ce sera clair, ce sera marial.
C'est vraiment possible.
Cette prise sur le sang.
Sans sentiment de culpabilité. Cette plaisir de l'abandon ontologique de dépendance au père des origines doit engendrer un désir dépassant absolument ce que nous aurions reçu si le vase était plein.
C'est facile à comprendre, ça. Hein?
Je comprends pas.
On va recommencer, relisser.
Cette brisure de l'abandon ontologique de dépendance au père des origines va engendrer un désir dépassant absolument ce que nous aurions reçu si le vase était plein.
Eh oui, si notre vase était plein de lumière, on n'aurait plus de désir de rentrer dans la lumière.
Oui, voilà, c'est la même chose.
Alléluia.
La gloire est liée à une séparation de l'amour. L'amour de nos parents, parce qu'il est limité, nous sépare de l'amour de Dieu. Et le sentiment de culpabilité va s'engendrer à partir de cette succession de séparations. Prenons le temps de réfléchir, de prier et de méditer pour comprendre petit à petit ce phénomène très connu des psychologues. Ce sont essentiellement les épreuves de séparation qui engendrent la crucifixion de l'innocence. La naissance, par exemple, sépare l'enfant de sa mère. Et c'est la nature et la sagesse créatrice de Dieu qui demande à l'embryon d'expérimenter de plus en plus un amour séparant. Ce point très intéressant est repris par toutes les mystiques de l'école française des 17e et 18e siècles, avec la fameuse notion de l'amour qui sépare. L'amour a deux fonctions. L'amour est séparant et l'amour est unifiant. Et plus il nous sépare de celui que nous aimons, plus il nous unit à lui. C'est pour cela que Jésus a dit « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille ». Il se sépare pour que nous soyons encore plus unis. À partir de l'innocence crucifiée, ce désir d'amour infini nous oblige à faire rentrer notre chair blessée dans la créée, l'éternité de la très sainte Trinité. Cet amour et ce fruit sont donc plus grands.
Voilà, donc premier fruit positif du sentiment de culpabilité, le désir. Une âme de désir, c'est forcément une âme contemplative. Sakpegi disait, ami, n'arrête pas ton désir. C'est une phrase que Marthe Robin aimait répéter. N'arrête pas ton désir. Deuxième sortie extraordinaire, grâce au versant positif du sentiment de culpabilité, la croissance. Le désir de la lumière. Et du coup, l'intelligence apparaît. Ce désir de l'au-delà, et l'au-delà est la lumière. Et moi, je suis la nuit. Alors, je deviens humain. Deuxième, respiration positive grâce au sentiment de culpabilité. Je fais toujours au-delà de moi-même, je grandis. Ah voilà, je ne suis plus dans la lumière du velours tout lumineux, merveilleux de ma mère. Je vais sortir du sein de ma mère dans un grand cri. Et je vais grandir dans une autre lumière. D'accord ? Alors voilà la croissance. Allez, qui prend la suite de la croissance là ? Vas-y.
La croissance implique des séparations successives. Le petit embryon se sépare d'abord du lieu d'unité des deux gamètes. Puis, à la nidification, où il rentre dans l'utérus, il se sépare de ses liens exclusifs et directs avec le père. C'est à ce moment-là que la femme prend conscience qu'elle est enceinte et que peuvent apparaître des pensées contradictoires. Puis la naissance, l'école. L'amour séparant est nécessaire pour actuer notre identité dans le dépassement. Si nous restions dans cette dépendance ontologique, vitale, embryonnaire et biologique, notre identité et notre personne n'apparaîtraient pas. Voilà le deuxième aspect sous l'angle duquel nous voyons que l'innocence crucifiée est un bien indispensable. L'amour séparant nous oblige à la croissance, et dans la croissance nous découvrons notre identité inscrite au livre de la vie. Mais c'est vrai, cette découverte de notre identité à travers l'amour séparant fait naître en nous un sentiment de culpabilité. L'apparition du sentiment de culpabilité accompagne cet appel à l'identité, à l'unification plus grande et à cette soif de sainteté. Le sentiment de culpabilité comporte donc en lui-même un aspect positif et un aspect négatif.
Il engendre une agressivité de croissance ou une agressivité coupable. Le sentiment de culpabilité va faire naître la fameuse angoisse. L'angoisse est ennuyeuse, mais elle garde aussi un aspect extrêmement positif. Elle engendre une certaine agressivité de croissance en nous. Piaget fait remarquer qu'une fois que le sentiment de culpabilité est formé, l'agressivité permet à la personnalité de se constituer. Nous nous mettons en phase de contre-réaction. Et en contre-réaction, nous trouvons notre autonomie. Donc grâce à l'angoisse, le moi se constitue. C'est pourquoi il ne faut pas empêcher un enfant d'aller jusqu'au bout de cette phase d'agressivité. Tout cela nous advient à un moment où notre intelligence ne peut pas s'exercer. Tout cela apparaît entre la conception et les premiers exercices de la conscience mentale, qui est encore très rudimentaire. C'est pour cela qu'un certain temps est nécessaire. 3 ans est l'âge auquel le langage apparaît et la réflexivité par rapport à soi-même à travers le langage. Cette réflexivité permet de retrouver ce que nous sommes. Grâce à l'agressivité, nous prenons une distance par rapport à cela et notre petite personnalité se constitue. Certains ne sont jamais permis de vivre cette agressivité en face de leurs parents. Alors, on va leur demander, à l'âge de 35 ans ou 50 ans, de s'autoriser à dire non. Cela permettra peut-être que l'on puisse se donner aussi l'autorisation de dire oui. Car ce oui est porté par l'agressivité de croissance.
C'est la manière
la plus forte d'établir la distance.
Alors continue.
Il aurait donc été préférable que les parents les laissent faire pour les aider à positiver avec eux l'inquiétude sous-jacente. Le sentiment de culpabilité enferme cette inquiétude, ce qui explique l'angoisse. Attention, il faut respecter son père et sa mère. Mais ici, le processus est psychologique. Psychologiquement, il est normal que nous ayons vis-à-vis de notre père ou de notre mère une révolte. Il faut le leur dire. Vous savez, je vous aime beaucoup, mais j'étouffe. Arrêtez. À ce moment-là, nous devenons nous-mêmes.
Un autre aspect positif du sentiment de culpabilité est la prise de conscience. Nous nous posons la question, mais pourquoi est-ce que je suis ainsi? Que m'arrive-t-il? Pourquoi ce sentiment de révolte sans raison? Le sentiment de culpabilité n'est pas foncièrement négatif comme mécanisme prévu par le Créateur pour que nous puissions nous retrouver nous-mêmes face à nous-mêmes, pour que nous puissions entrer dans la prise de conscience qui va engendrer tout le processus de la conscience de culpabilité. Grâce à cette prise de conscience, nous allons pouvoir pardonner et nous donner gratuitement. Prendre conscience de l'appel à pardonner fait entrer dans cet aspect positif du sentiment de culpabilité. Il nous évite l'enfermement dans les refoulements négatifs du sentiment de culpabilité. La névrose, les phénomènes habitudinaires et pulsionnels.
Eh oui, c'est ça. C'est ça le sentiment, l'idée fixe. Et puis les actes aussi compulsifs. Les ans jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est merveilleux ça. C'est des compulsivités. C'est des compulsivités d'agressivité, des compulsivités de concupiscence, des compulsivités de pensée. Alors ça, c'est négatif. Mais si on est dans le désir d'autre chose, si on est dans on dit, si mes parents et moi-même, je dis, bon, il faut que je grandisse quand même. Soyez au-delà. Bon, si on est dans la prise de conscience qu'il faut tout donner pour entrer dans la lumière du pardon et l'au-delà du pardon dans la lumière, à ce moment-là, on a les trois émanations positives du sentiment de culpabilité, parce que le sentiment de culpabilité, c'est un appel grâce à Dieu et aux lois de la nature pour toujours sortir de l'âme et rentrer dans l'esprit de lumière. Puisque nous sommes corps, âme et surtout esprit. Mais s'il n'y avait pas de compression, vous voyez, qui vient des limites du monde, des limites qui sont en nous, et des limites de ceux qui nous sont donnés comme demeure, comme maison, comme famille, comme foyer, etc., de croissance, bah, on serait toujours enfermé dans l'âme et on n'irait jamais respirer dans l'esprit, dans la vie contemplative, dans l'intelligence. C'est pour ça que les gens qui sont trop, les enfants qui sont trop éduqués dans le coton, ne sont pas intelligents. Ça fait des redents, des limaces. Pour la cuillère, la limace, tu prends une cuillère, tu vois, tu mets la limace, elle prend la forme de la cuillère. Charmant. C'est pas très digne. La spiritualité de la limace, si la cuillère est en creux comme ça, ça fait que tu prends la forme de la cuillère. C'est pas génial. Mais si la cuillère est comme ça, alors tu prends la forme de la cuillère. C'est pas génial. Tandis que si tu es lumière, tu fais la cuillère, tu es dans la lumière, et tu éclaires le ciel et la pièce dans laquelle tu es. Pas la forme de la cuillère. C'est la cuillère qui te donne ta forme. C'est dans la cuillère que tu saisis ta forme. Tu te dépasses, tu sors de la cuillère. Ta forme de la cuillère n'est plus ta forme. Tu es toi-même. Vous voyez ? Et le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où on dit j'ai pas traumatisé le corps, tout ça. Tu as traumatisé. C'était le passe d'avant-hier, et un petit. Ah non, c'était hier. Hier. C'est une petite. Elle avait un petit bébé, 6 mois à peu près. Non, pas 6 mois, qu'est-ce que je raconte? Ah non, qu'est-ce que je raconte? Il avait 20 jours. C'est un autre qui avait 6 mois. C'était il y a 10 jours. Mais là, hier, ce petit bébé, il avait 20 jours. Oh, on est en 20 jours. J'ai expliqué au petit papa et à la maman. Le petit papa, il est japonais. La petite maman, elle est française. Alors, ils ont 22 ans, bon, mon petit bébé était là. Alors j'ai dit ce que vous savez peut-être, dit pendant le premier mois, vous savez peut-être ça, je sais pas. Dit vite, est-ce que vous savez un petit peu de ce qu'il faut faire, c'est dès que vous pourrez, vous prendrez tout ce que vous trouverez, des poussières qui font qu'on devient asthmatique, qu'on devient allergique, qu'on attrape la grippe, on attrape tous les virus, tous les machins qui font que vous mettez un magma de 200 virus, tout ça, et puis tous les trucs qui font qu'on est allergique aux poils de chat, tout ça.
Ah, comme ça, c'est pas après. Le poil de chat, on va faire
un. C'est pas ça que je dis.
Parce qu'on dit
poil de chat. Parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au poil de chat, d'autres allergiques à ceci, d'autres allergiques à cela, au foin de maïs, de machin, de cette époque. Bon, c'est de toute façon. Bon, allez, on prend tous ces trucs qui fait que. Bon, qui donne soit des allergies, soit des boutons, soit des machins. Bon, voilà. Alors j'en fais un magma extraordinaire, et dès que mon petit bébé, il a encore 20 jours, il n'a pas encore 30 jours, hein, et en fait c'est les 4 premières semaines, chut, allez hop, on asperge le berceau. Et comme ça, parce que un enfant, dans les 30 premiers jours, il a 30 jours, pas plus. Tout ce qui va recevoir comme virus, comme chose qui normalement dans les, chez les adultes, ben, il va le recevoir tout de suite. Il va être obligé de faire apparaître en lui les mécanismes de défense biologique et il n'aura jamais aucune de ces maladies. S'il y en a 300 qui sont peut-être... Tout de suite, aucune allergie. Si en plus dans la famille on est tous allergiques à ceci ou à cela, alors raison de plus, alors le médecin docteur Gerner, il avait toujours sa petite boîte avec sur le berceau. Ah, oui, mais enfin comme ça j'aurai moins de travail avec votre gosse pendant 30 ans. Hein.
Il n'est pas ça.
Médecin de famille, n'est-ce pas? Ça, terminé. Alors, aucune de ces maladies-là. Hein? Ben, le vaccin, c'est pas la même chose que le vaccin.
Ça favorise l'allergie, le vaccin.
Oui, mais le vaccin, c'est pas pareil. Il faut le faire rentrer. C'est pas par la voie de l'air. Hein? Voilà. Donc, c'est autre chose, le vaccin. C'est tout à fait un autre système. Voilà. Mais il faut savoir que les 30 premiers jours, le vaccin, en plus, souvent on le donne à l'enfant quand il a 3 mois, quand il a 6 mois, quand il a 1 an, 2 ans. Mais les 30 premiers jours, chut, voilà. Ah non, l'enfant te se remet en couveuse, se préserver, te déceptiser. Celui-là se cause, il a 3 mois. Attention, vous allez déchirer votre affaire. C'est un terrible négatif de la conscience. Vous verrez ce que c'est que la dérive négative de la conscience culpabilité. Vous allez avoir une illustration extraordinaire à l'intérieur. Pour repérer les dérives négatives, c'est extraordinaire. De la conscience de culpabilité. On a sceptisé les enfants. C'est pourquoi vous avez bien sceptisé vos enfants les 30 premiers jours. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ces enfants, s'ils sont bien aseptisés, bien lavés, bien machin, bien truc, alors là, qu'est-ce qu'ils vont être fragiles. Alors, une petite fille, une petite dernière, mais tu sais, sans épouse japonaise, là. On savait pas. Tout l'enfant était bien couvert, tout ce que j'attends pas pour avec le lait, vous savez, le lait pour les enfants. Et alors, voilà, les 30 premiers jours, vous rendez compte. Oh. Pauvre gosse. Bon. Juste, je sais pas pourquoi ça n'a rien à voir avec le texte.
J'ai une question. Bon. J'ai une question.
Oui.
De dire non. Laisser l'enfant dire non,
ah ouais, oui.
C'est l'autoriser, ça lui permettra peut-être que l'on puisse.
Oui, parce que tu vois, un petit bébé, il a 2 ans et il s'émerveille, un petit bébé, il dit ah, puis après il a 1 an, il commence à marcher. Ah, bah, oui. Puis d'un seul coup, il a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça.
Non.
Oui. Qu'est-ce qu'il lui prend? Attends, pourquoi tu fais ça? Non! Alors, les parents, ils disent comment ça? Ça, c'est pas gentil! Tu dis non à ta maman! Hein? C'est tout mes quotas! Ça, c'est l'erreur à pas faire. Tiens, premier nom qui apparaît, c'est. Ah, ça y est! Tu peux dire non, tu es grand maintenant. Ouais. Et je dis non, ça veut dire toi et moi, je prends la distance et donc je peux avoir une relation de distance et donc d'union avec toi. La maman découvre qu'il va y avoir une union nouvelle avec lui grâce au non. Oh, comme c'est bien. Redis non, s'il te plaît. Non. Ah, c'est bien, tu as dit non parce que tu m'as dit non. Redis non. Oui. Mais grâce à ça, dès le premier instant, voilà que la phase de contre-dépendance est immédiatement résolue parce que j'ai pas voulu aseptiser les trucs par mes idées fixes, mes conceptions préconçues, machin, truc et tout ça. Psycho, machin, débile, bon, voilà. Et du coup, la phase de contre-dépendance est résolue. Ce gosse-là ne fera jamais de crise d'adolescence. En contre-dépendance. Jamais.
Mais il est quand même...
Une phase de contre-dépendance. Oui. Quelqu'un a droit. Il faut qu'il ait la possibilité de dire non. S'il peut dire non, s'il peut dire non, c'est qu'il peut dire oui. Et c'est ce qui réconforte le regard de Dieu sur lui, le regard de la mère. Donc le bon Dieu est très content qu'il puisse dire non. Parce que comme ça, il va pouvoir dire oui autrement. Hein? Parce que vous savez, le sentiment de culpabilité, en fait, est pratiquement totalement constitué à l'âge de 3 ans et demi. Hein. La conscience de culpabilité, elle va se constituer de 3 ans et demi à peu près à 6 ans. Hein, 6 ans à peu près. Donc, autant la conscience, le sentiment de culpabilité est parfaitement constitué à 3 ans et demi, autant la conscience de culpabilité est parfaitement constituée après la phase de contre-dépendance. Hein. Bon, ben ça, c'est classique, ça. Donc quelquefois, donc l'éducation de l'intelligence et de la dignité de l'enfant, bah, c'est dès, on le sait très bien, c'est dès la conception, c'est dans la période embryonnaire, dans la phase de contre, c'est dans la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, phase de contre-dépendance, et dans la conscience de, dans la phase de la résolution de la conscience de culpabilité, parce que ça c'est très important de rentrer dans la conscience de raison. Ça suit d'ailleurs les 6 dons qu'on avait vus tout à l'heure pour l'amour. Il y a 6 dons dans la lumière. Mais si on éduque, si je puis dire, psychologiquement un enfant, ça fera, vous savez, je me dis, mais pourquoi ça se fait que mon gosse, il soit comme ça, il soit bête. Il est bête. Faut peut-être regarder pourquoi justement. Bon. Quand même on donne la vie, il faut quand même comprendre qu'un jour quand on donne la vie à la lumière aussi. Hein? On donne pas la vie à une bête quand même. Alors. C'est un être de lumière, de vie contemplative, de prière. C'est ça vous, je disais que là, j'avais vu il y a 10 jours, oui, une petite scène.
Oui.
Je disais, c'est ça. Elle avait, c'était 8 mois là, 8 mois et demi. C'était 9 jours, 8, 9 jours, je pense. C'était mardi, donc je pense. Donc c'était cette semaine. Donc, c'est mardi. Voilà, alors, ben, du coup, ce que dit la Torah, en disant un enfant, les premiers mots qu'il faut qu'il dise, voilà, quand il regarde vers le ciel, c'est-à-dire vers sa mère, vers son père est ici, il a son regard là, et puis avec l'enfant voit les lèvres du papa ou de la maman, peu importe, et il dit, petit bébé, dis, alors, bébé est ici, dis. Le bébé, il dit n'importe quoi, il fait. Alors le papa arrive et dit écoute en hébreu. Alors on dit et la première chose que l'enfant d'Israël, l'enfant de Dieu, l'enfant de l'homme doit dire d'après la révélation de la Bible, c'est me voici au ciel. Ça veut dire oui au ciel. Quand la Vierge a répondu oui, elle a dit alors fiat en latin, mais en hébreu c'est la première chose, quand vous allez plutôt aux Hébreux, la première parole que les lèvres de Jésus ont prononcée dans son incarnation. C'est marqué dans les épîtres aux Hébreux. Quand il est venu dans ce monde, la première parole qu'il a prononcée, c'est me voici pour faire ta volonté. Alors, petit bébé, pourquoi ça a été là ? Qu'est-ce que c'est que celui-là, là ? La mère a dit, il me casse les pieds, ce frère. Comment il s'appelle, ce frère ? Après, elle a dit, il s'appelle comment, ce frère ? Il s'appelle comment, ce frère ? D'où il vient, ce frère ? Elle m'a dit, à la fin du moment où je décède, elle m'a dit, on peut parler. Elle m'a dit, mais vous êtes là depuis longtemps ? Elle m'a dit, j'ai Dieu, oui, parce que ça fait 6 ans que je suis là. C'est une habitude. Ça fait 6 ans que je suis là. Vous ne m'avez pas vu ? Bon, quelquefois on ne voit pas. Hein. Alors. Depuis 6 ans, elle n'avait pas vu. Ça veut dire que je suis assez gros. Alors.
Le père Alain François, c'est Alain François
qui est là. Père Alain François, ouais. Oui, il était là. Et donc, cette petite fille, du coup, aussitôt à la fin du repas, ça a commencé, je vous le dis, aussitôt, elle a commencé elle a vu qu'il y avait la présence de Marie à travers une la présence de Jésus à travers une statue, là. Et elle a eu les yeux fixés comme ça sur Jésus. Et puis elle a parlé avec Jésus. En langue comme ça. Puis après que Marie, ben c'est de là, l'autre mère était là. Dans ses bras. Mais oui, pourquoi ? Parce que il y en a ces indications à la lumière. La lumière, c'est le logos. Le logos, c'est le verbe. Le verbe, c'est nous. Dans l'adaptation. Et c'est la première éducation. Plus élémentaire de l'être humain. C'est la base. Pourquoi faire des gosses, de nos gosses, des gens grégaires ? C'est dur. D'accord ? C'est déjà frugal. Alors, on continue. Donc, enfin, grâce à la prise de conscience de nous-mêmes, nous redécouvrons cette soif infinie d'amour qui a été blessée comme une porte royale unifiante à la source qui peut cicatriser cette blessure et combler cette soif, l'innocence crucifiée et triomphante du Christ. Quatrième aspect positif, acquis. Un autre aspect positif très important.
Un autre aspect positif très important du sentiment de culpabilité, c'est que grâce au sentiment de culpabilité et à la prise de conscience, la souffrance qui est au fond de nous, à l'état latent, va prendre un sens. Notre vocation se dessine. La souffrance nous appelle à aller dans une certaine direction. Le sens qui est donné à la souffrance. Retrouver le désir de Dieu, amour infini. Cela nous remet dans l'espérance. Sans le sentiment de culpabilité, notre espérance serait beaucoup moins forte. Ce sentiment d'attente de Dieu et de la grâce de l'espérance est d'autant plus fort que nous sommes plus blessés. Nous pouvons alors vivre dans cette direction vers cet amour infini qui nous comble de Dieu, accepter la prise de conscience, aller vers le pardon et être nous-mêmes debout dans ce lien entre Dieu et notre Père et notre Mère. Enfin, nous avions vu un dernier aspect positif du sentiment de culpabilité. L'agressivité nous met face à nous-mêmes, notre personnalité se constitue. Mais si cette agressivité se prolonge outrancièrement, nous nous apercevons que nous sommes source de diminution d'amour et donc d'augmentation de notre propre blessure. Associée à la prise de conscience, l'agressivité permet de produire le repentir. Le repentir à son tour nous permettra de comprendre qu'un autre est à côté de nous et fortifiera le sens de l'altérité. Un autre qui viendra à notre secours. La solitude coupable cherche l'altérité pour se faire solitude habitée et vivante.
Bien sûr. La relation à l'autre, c'est la retrouvaille de l'un dans la lumière. C'est Yvon Amar qui disait ça. Yvon Amar. C'est beau ça. La relation à l'autre, c'est la retrouvaille de l'un. L'un. La relation de l'un, c'est la relation de l'autre. C'est ça. Et ça, c'est grâce au sentiment de culpabilité qu'il y a cette possibilité de retrouver de l'un dans la lumière.
Moi, ce sentiment d'attente de Dieu et de la grâce de l'espérance est d'autant plus fort que nous sommes plus blessés. Ce n'est pas le sentiment de culpabilité, là. Je veux dire, quand vous parlez de blessures.
Si, c'est les dérives, ça. Toute blessure, toute maladie engendre en nous le mécanisme du sentiment de culpabilité. Quelqu'un qui est malade, il se sent. Tu ne peux pas faire autrement, tu te sens limité. La rencontre d'une limite fait naître en nous le processus de sentiment de culpabilité. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on a des limites, parce que sinon, on n'aurait pas ce rebondissement en nous-mêmes pour aller plus loin que la blessure. Donc, plus la blessure est grande, plus l'espérance est grande.
Oui, d'accord, mais c'est par rapport à la blessure et le rapport au sentiment de culpabilité et blessure.
Dès que tu as une blessure, ça fait naître en toi un sentiment de culpabilité. Dès que tu as une blessure, le mal t'a frappé, ça fait la souffrance, ça fait une douleur, ça fait, je pense, n'importe quel type de souffrance, n'importe quel type de blessure. Voilà. Et voilà, je cours, et puis boum, je tombe par terre, je me brise le genou, ça saigne.
Sentiment de culpabilité.
Mais bien sûr, on dit, je me suis fait mal, je m'en rappelle, j'étais gosse, je me suis coupé, le sang avait coulé de mon doigt, qui était à moitié coupé, tout ça. Je suis rentré à la maison, mais j'ai tout caché, j'étais à la pharmacie en secret. Je voulais pas qu'on me voie, mais toute blessure en genre. Culpabilité. Normal. Mais c'est justement, c'est ça. Donc, du coup, ce sentiment de culpabilité fait. Mais c'est heureusement qu'un sentiment de culpabilité, parce que du coup, je suis obligé de rebondir pour aller plus loin que la blessure. Et c'est donc plus grande la blessure, plus grande la capacité de la lumière. Dans l'espérance.
Voilà. Des blessures avant de naître, c'est aussi de.
Pareil, bien sûr. Toutes les formes de limites. Or, on est dans la lumière. Au départ, on voit tout. Non, c'est pas notre. Quand vous êtes en embryon, vous n'avez pas de cerveau et vous voyez vraiment tout. Votre intellect agent, il est libre. Et à travers le corps, il n'y a rien, il n'y a aucun obstacle à votre vision spirituelle, mystique, humaine et divine de la lumière de Dieu, dans la lumière de la vie, la lumière de l'existence, et la lumière du désir, et la lumière de l'espérance, c'est-à-dire cette réceptivité d'une grâce nouvelle de lumière, et on reçoit d'ailleurs des grâces nouvelles de lumière tout au long de ces 9 mois, tout le temps. Donc les 5 aspects positifs du sentiment de culpabilité, du fait qu'on est dans une lumière qui s'est incarnée dans un corps qui est tout petit, qui a ses limites, qui est sous dépendance, fait, dès les 9 mois, il y a ces 5 grandeurs à cause du sentiment de culpabilité naissant qui ne cesse de me faire grandir en même temps que je grandis biologiquement. Spirituellement, il y a une croissance dans la lumière phénoménale dans les 9 mois. Une croissance contemplative, ce qui fait d'ailleurs que les enfants, quand tu les vois, si. Moi, je finis par avoir l'habitude, parce que c'est presque systématique. Dès que je vois du bébé qui a un mois ou trois, etc., tout de suite, j'aime bien le regarder, m'engloutir dans la lumière de mon intellect agent, elle-même plongée dans la lumière du Verbe de Dieu, et tout est ouvert dans la lumière apostatique du ciel. Et puis je commence à lui parler, et puis je parle avec mes lèvres, avec des mots, et puis je lui explique l'Immaculée Conception, si tu sais. Alors le parent dit, je fais toute la théologie mystique, et l'enfant dit, il ne comprend pas les paroles, mais il voit ce que tu dis. Ah, elle le voit. Tu ne peux pas ne pas le voir qu'il le voit. Il n'y a que la maman qui pense que l'enfant ne peut pas le voir, puisque elle ne le voit pas, puisque elle est complètement grossière. Ah non, son enfant la dépasse dans la lumière, elle ne peut même pas l'imaginer, puisqu'elle est une limace. Mais une maman contemplative, ah, c'est différent, elle voit tout de suite que cet enfant est réceptif, qu'il comprend, qu'il voit dans la lumière. C'est une maman de lumière, c'est une maman humaine. C'est pas une truie, vous voyez. Pas vous, ça va. Vous avez évidemment pas fait comme ça. Grâce à Dieu, mais... Comprenez le nombre de mères qui n'ont pas été les mères de la lumière. Et alors l'enfant, il dit, une conception. Tu expliques, j'explique une conception. Tu vois, regarde, tu vois, je t'explique. Ah, tu vois, dans l'union hypostatique déchirée de Jésus, évidemment. Tu sais, là, Dieu va créer l'immaculée conception, l'immaculée vaginale, et pour toi, elle peut pénétrer ta lumière, tu sais. Et les deux ensemble, vous allez aller au-delà de l'unité des deux dans la grâce de ta vie. Alors l'immaculée conception va aller jusqu'à la dormition, et toi, tu vas t'engloutir, disparaître dans la nuit en la dormition de l'immaculée conception. Et du coup, Dieu te prendra dans une plus grande lumière. Alors, le gosse, il est là, tu regardes. Il réagit dans son âme spirituelle à la lumière surnaturelle à laquelle son ange d'ailleurs que son ange que l'aide de lumière associée de son ange fait pénétrer en lui en même temps. C'est ce que faisait la maman de Saint Nicolas de Flux. Elle lui expliquait les choses de la vie surnaturelle contemplative sous le souffle de l'Esprit de Sagesse dans les mystères divins de Marie. Et du coup, il se rappelait encore à l'âge de 50 ans, parfaitement, quand il avait 3 mois avant la naissance, tout ce qu'il avait vu, compris, contemplé dans la lumière, sur le mystère de Marie. Il se rappelait très bien. Ah, c'est ça, voilà. Là, vous faites, vous engendrez dans la lumière, vous engendrez dans la vie. C'est ce que demande la Torah dans la Bible. Les Juifs sont parfaitement conscients de ça. Une mère juive, vous savez, elle est très attentive. Chaque jour des 9 mois et la naissance, et après de ça. C'est pour ça d'ailleurs que les Juifs, c'est pas qu'ils ont un cerveau plus développé que l'autre, ils ont quelquefois un cerveau moins développé que l'autre, mais comme ils sont éduqués dans la lumière, en fonction de la tradition de la Torah, leur monde corporel est instrumentalement libre dans le dépassement de la lumière. C'est pour ça que quelque part on voit que ils sont beaucoup moins que nous, que les Gaulois, qui éduquent ça avec des obélix, avec des... Place de gosse devant la télé. Ah, il va comprendre des choses du monde comme ça, petit à petit. Bon, alors, c'est comme ça. Hein. Ah, le sentiment de culpabilité, donc c'est très bien. Donc, vous voyez, d'abord, pénétrer un grand désir, c'est une croissance. C'est une prise de conscience, c'est la possibilité de voir sa vocation dans la lumière, bon, et puis aussi donc, le sens de l'autre dans la lumière. Alors du coup, le fameux, voilà l'enseignement, puis ensuite l'exercice. Sous forme de prière, nous allons dire sous forme de prière l'expression de l'aspect positif du sentiment de culpabilité, page 14.
Page 14.
Vous avez pas mis une marque là sur...
Oui, j'ai dit bien.
Donc, page 14.
C'est pas encore.
Sous forme de prière, voici l'expression de l'aspect positif du sentiment de culpabilité. On pourrait en faire une prière quotidienne. Notre exercice de pneumatothérapie consistera à pouvoir la réécrire et la retire avec une expression personnelle. Bon courage, demeurez dans la paix et notez vos propres nuances. Alors voilà, on va essayer de le dire ensemble si vous voulez, d'une seule fois. Et tranquillement, gentiment. Dans l'aigreur, où me met mon amertume. Oh, doucement, oh là là. Doucement. Dans les grains où me met mon amertume et ma vengeance sur moi-même, mon infidélité et ma honte obstinée. Je veux bien me poser sous ton regard la question, mais pourquoi suis-je ainsi? Que m'arrive-t-il? Pourquoi cette révolte qui m'arrête dans la course de toi? De la tristesse qui m'avait arrêté dans ma course, fais sortir le désir de repartir, que je goûte encore un jour au goût du repartir, que je puisse voir ma vie et mon proche autrement que comme des ennemis de mon ravissement. Je vois que sans un cœur contrit et décidé, je prends le sens de ce qui devrait me ravir et m'attirer. Fais-moi voir ton regard sur ce qui me sont proches. Non, je ne dirai pas que je suis indigne, ou que je ne suis pas prête, ou que je ne le veux pas encore, puisque avec Jésus, je suis digne. Ma crucifixion m'a redonné dans la dignité. Ma résolution m'a redonné dans la souffrance. Mon innocence m'apparaîtra bien plus forte que ma mort. Dieu, tu es bien au-delà cela beaucoup plus fort que le désastre de mon murmure, que ma faute ouvre une nouvelle perspective dans l'union profonde. Ce que tu as permis va toucher en chercher en moi le vif désir d'un amour autrement plus beau, autrement plus envahissant que la souffrance et la déception qui se trouvaient au fond de moi à état latent, qui illumine un sens, une voie nouvelle, une vocation plus vraie. Je désire vraiment, même si je ne suis pas délivré de cet état souffrant, aimer et pouvoir servir dans un état supérieur, plus disciple, plus enfant, avec cela en moi, peu importe, et pour ne plus gémir, ni murmurer par mes actes secrets, ne plus freiner par la persévérance, par l'insolence. Oui, je m'arrête dans cette blessure. J'irai silencieusement attentif à la lumière d'un chemin qui m'ouvre au désir d'un au-delà de mon mal. Le mal sera détruit, il ne reviendra plus. Je me confie là, en m'offrant moi-même comme je suis, pour retrouver mon Père de cette manière. Que sa gloire glorifie cette séparation que j'ai provoquée, où je me suis en fait laissé prendre. Mon Dieu, j'espère avec une confiance totale qu'en cet instant tu me donnes toutes les phrases et bien plus grandes encore quand j'en suis là. Tout couvert de sang et de promissures, et que tu me donnes aussi le germe de la lumière de gloire qui établit dans l'intimité éternelle d'une proximité intérieure à toi-même. Mon espérance s'engloutit dans un abîme bien plus fort, et je t'en remercie. Je grandirai dans cette force, mes jugements et mes juges seront confondus. Avec moi, viens leur dire non, ne crochez pas, je suis noir, mais je suis belle, car mes noms sont un oui plus profond. Tu es Seigneur, mon héritage.
Alors, l'exercice pneumato-spirituel qui est très beau, que vous pouvez faire, par exemple pendant 5 minutes avant une oraison d'une transformante, une adoration, vous prenez cet exercice-là qui est là. C'est l'exercice qu'on propose en pneumato-surnaturel pour sortir de toutes les dérives négatives, de le sentiment de culpabilité, et pour utiliser le tremplin de toutes les... chance positive offerte par le sentiment de culpabilité et du coup être catapulté dans la lumière. Mais par grâce à la prise de possession surnaturelle de cet exercice contemplatif qui est un exercice contemplatif, le développement de la lumière dans ma lumière. Et cet exercice-là est très beau, vous voyez, vous pouvez très bien le reprendre 5, 6, 7, 8 fois, voilà, pendant 5, 7 minutes de suite. C'est ce qu'on appelle la préparation immédiate à l'oraison. Il faut toujours une préparation à l'oraison. Et une préparation immédiate. Parce que si on fait le raison, alors qu'on est enfermé dans les dérives négatives, alors tout le monde en raison sera dans mon milieu fixe. Ça vient quand Dieu nous aime avec ça, et puis il dit, attends, c'est pas perdu, tu vas donner une heure, t'inquiète pas. Le jour où tu seras dans la lumière contemplative de la quatrième demeure, cette heure-là te sera redonnée. Mais c'est vrai que bon, cette heure-là, dans l'immédiat, elle ne fait produit pas son fruit, puisque vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai passé ça avec la folle du logis, vous voyez. Alors, sortir, voyez, regardez. Voilà comment il s'exprime, voilà comment c'est explicite cet exercice-là. Personne ne peut le faire à votre place, hein, évidemment. Mais il faut le faire, bien sûr. Il faut le faire une fois de temps en temps. Ne serait-ce que pour être définitivement affranchi des dérives négatives du sentiment de culpabilité. À un moment donné, on va se dégorger, une fois pour toutes. C'est génial ce petit truc. Alors, je m'approche de Jésus accablé de souffrance. À l'instant qui précède sa mort, vous voyez, je m'approche de Jésus accablé de souffrance. Dans l'instant, une seconde juste avant sa mort. Oui, Jésus, juste une seconde, une demi-seconde, trois secondes avant sa mort. Je m'approche de Jésus. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas s'inquiéter. Donc Jésus est accablé de son... Et alors je m'approche de lui, Oui, ça dure quoi, 2-3 secondes, hein, d'accord. Vous voyez ces 2-3 secondes là. Je m'en approche, attends qu'il me dit, oh, bah, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Ne t'inquiète pas. Approche-toi. Comme petit lapin blanc, on rentre dans les bras du Père qui sont à l'intérieur de l'océan de souffrance intérieure de Jésus. Me voit le Père. Si Jésus dit ça, l'océan de souffrance, le Verbe de Dieu souffre à travers Jésus crucifié. C'est toute la vie du Père qui souffre à travers Jésus crucifié. Vous voyez ? Donc je me jette dans les bras du Père, à l'intérieur de Jésus crucifié. Mais vous voyez, juste dans cette seconde qui précède. Ces deux secondes-là, c'est le comble de tous les océans de souffrance dans l'indivisible unité avec toutes les souffrances de tous les temps et de tous les lieux qui sont dans son océan de souffrance à lui. Et cet océan, c'est un comble. Et je rentre, je m'approche, je pénètre dans l'océan de souffrance de Jésus crucifié. Je m'en approche. Accablé dans l'instant qui précède. C'est facile à faire. Vous me suivez ? Jusqu'à ce que j'éprouve quelque chose de cet accablement extrême. Jusqu'à ce que j'éprouve quelque chose de cet accablement extrême. Jésus, j'ai envahi l'accablement, la souffrance de l'océan, la souffrance de Jésus, dans l'indivisible unité vivante qu'il a avec toutes les souffrances de tous les temps, tous les lieux futurs, passés, présents, même toutes les souffrances et tortures, qui étaient réprouvées en enfer éternel, qui sont en lui, hein,
Cette enceinte souvent s'accable quand je rentre dedans. Jusqu'à ce que j'éprouve quelque chose de cet accablement, cette souffrance extrême. Il est impossible à Jésus de mourir. Son union hypostatique fait qu'il ne peut pas mourir. L'union de son corps et de sa vie humaine tellement forte que ça fait disparaître la personne humaine dans la personne divine. Saint-Augustin dit que l'unité qu'il y a dans l'union hypostatique de Jésus est plus forte que l'unité qu'il y a dans la très sainte Trinité. Parce que dans la très sainte Trinité, les trois personnes sont très très unies dans l'essence même de la nature divine, mais pas au point de faire disparaître les personnes. Tandis que dans l'union hypostatique, la nature humaine, elle est si forte, l'union, que c'est la personne divine seule qui fait l'hypostase. La personne humaine a disparu dans le Christ. Il n'y a pas de personne humaine dans le Christ. Qui fait la personne dans le Christ, c'est la personne divine. Donc l'union de l'union hypostatique est très forte, ce qui fait que c'est impossible pour Jésus de mourir. Ah, vous avez fait pas penser à ça. Merci Saint Thomas d'Aquin de nous avoir expliqué. Merci Église de Jésus de nous avoir expliqué. Donc je m'approche, cette ancienne souffrance, j'y pénètre, je vois ce comble de souffrance, c'est pour ça, c'est un comble du comble du comble de l'extrême. Quand même connu la mort. D'accord. Et ça, c'est précisément pour comprendre que la mort de Jésus est un miracle papal d'amour, d'un miracle qui vient de la toute puissance de Dieu. La déchira lui-même. Sa dernière hypostatique elle-même, pour qu'on puisse passer. Mais l'instant d'avant, c'est ce comble. D'accord? Alors je m'approche jusqu'à éprouver quelque chose cet accablement, ce mal extrême. Jésus, dans la seconde qui, il est là, dedans, l'intérieur de lui, dans le fond de cet océan, sans limite, de cet accablement, de ce tourment, une joie très profonde, très cachée, c'est vrai. servir de cette joie pour déchirer cet accablement de souffrance. Et en le faisant, il détruira le mal partout, toujours et en tous. Alors, c'est ce qui fait cette sourde joie. Cette joie lui vient de cette union dans l'accablement en question. Et dans la production de la puissance infinie, de sa puissance divine dans sa, pour provoquer sa mort par amour pour le Père. Cette joie vient de cette union de volonté avec le Père. C'est une joie totale. Mais du coup, elle est sourde quand même, cette joie. Elle est profonde. Elle est la plus grande profondeur. De son lien hypostatique, inscrit dans la sagesse de la croix, qui fait son lien hypostatique avant la création du monde. De joie. Vous voyez l'exercice? Vous voyez l'exercice? Un exercice contemplatif, hein? Un exercice extrêmement contemplatif. C'est une lumière en nous qui permet de pénétrer dans la lumière et de voir dans le Christ. Ça, c'est de découvrir, d'éprouver quelque chose de cet accablement, de ce mal extrême, et dans le fond de cet océan, de découvrir la sourde joie qui émane alors du fond de lui, partout pour toujours et pour tous. L'extrême du mal et sa racine sont détruits. La sourde joie devient son cri. Et c'est ce cri qui provoque sa mort. Voir, contempler, éprouver. Éprouver, entendre, ressentir ou comprendre la sourde joie du Dieu vivant en lui. Et comme son écho dans mon union avec lui. Tel sera pour moi le signe du succès de cette étape d'anéantissement de l'aspect négatif du sentiment de culpabilité de son fruit, l'agressivité coupable. Les gens, tu peux pas les toucher. Enfin, faire cet exercice une fois en lisant juste cette phrase. Il faut la lire jusqu'à ce que la lisant comme le gosse, vous voyez, qui ne sait pas parler encore. Je la lis et du coup, sa lumière qui est dans cet exercice pénètre dans la lumière de mon intellect agent que je ne connais plus. Parce que je l'ai bien congelée, recouverte de tralala, et puis ensuite de. Pour être aseptisée. Alors je fais cet exercice-là, je prends ces paroles comme je viens de vous le faire, je l'ai dit une fois, vous voyez, puis hop, je le reprends une deuxième fois, comme si je l'expliquais à tous les enfants crucifiés qui sont en moi. Mais regardez, dans mon cœur, il y a les enfants crucifiés que j'aime, que j'ai accueillis dans mon cœur. Il faut que je leur explique ça, eux, n'est-ce pas ? Il faut qu'ils l'entendent dans leur âme séparée. Et puis, je leur explique, je fais avec eux l'agapé pneumatosur naturel de leur lumière. Et disons, leur maman les a avortés. Sentiment de culpabilité. Et quasi substantiel en eux. Ça, que je leur lise, que je le fasse, et ils le font avec moi. Je m'approche de Jésus dans la seconde qui précède. C'est accablement total. Et je reprends comme ça, pour une fois, deuxième fois ces 5 lignes. Jusqu'à ce qu'il y ait l'écho derrière, dans mon intérieur, dans l'autre, la lignité des deux, de cet accablement, et quelque chose, ça te donne de joie. Et puis tu la, ça donne et ça provoque. C'est tellement puissant que c'est la puissance de Dieu qui provoque la tension quand tu vois. Le filet s'est rompu. Nous avons échappé aux dérives négatives du sentiment de culpabilité. Je fais ça 4, 5, 6 fois, ça vous prend 7 minutes, et après, une fois que c'est fait, je m'enfonce dans la lumière hypostatique déchirée, le silence de sa nuit, dans toutes les nuits sans reprise, dans le dépassement de toutes les nuits, pendant une demi-heure de suite, je fais une oraison excellente. Il n'y aura pas de vol du logis, ça vous pouvez être sûr. Il est très beau cet exercice-là, de lumière, pour découvrir cette lumière sourde, cette lumière aveugle, cette lumière née de la lumière, dans la volonté d'amour du Père, dans la chair. Là, ça vous dégonge extraordinairement, vous voyez. Alors, toute souffrance désormais a un sens. Ouais. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens que je suis là. Exercice. Alors, du coup, on va passer, parce que là, vous voyez, c'était juste une petite introduction. Plus qu'une demi-heure, donc, introduction. Très bel exercice, il faut le faire, cet exercice, il est génial, hein, il est génial. Donc, je passe la page 1 et 2. Je tourne la page. Donc, étape 3, vous êtes revenu à la bonne page écornée. Vous tournez la page écornée. Voilà. Vous tournez une deuxième fois votre page écornée. Tac. Page 6. Page 7. Page 8. Et évidemment, nous allons regarder, si possible, le versant positif de la conscience de culpabilité. Mais avant de regarder donc page 8 et 9, d'accord, vous y êtes ? Donc, bon, là où vous aviez écorné la page. Non, elle n'était pas écornée, votre page ?
Non, non,
c'est pas
ça. Je l'ai trouvé.
C'est loin à l'école. Est-ce que c'est ça ? Moi, c'est pareil. Et quand j'étais à l'école, c'était un cancre.
Pourquoi c'est pareil ?
J'arrivais pas, parce que tout le temps on attendait pas. J'étais un cancre. Il y avait un frère jumeau, et là on me rappelle que c'est l'équivalent de la maternelle, l'équivalent du CE1, CE2, c'est ça hein, CM1. Là, à chaque fois, toujours, parce que c'était pas clair, on mettait des notes, il y avait des classements, les meilleurs, les moins bons, tout ça. Dans la classe, il y avait. Bon, il ne savait pas parler français, donc c'est normal, il était dernier de la classe. Moi, j'étais l'avant-dernier et mon frère, c'était l'avant-avant-dernier.
Ça a changé après.
C'est comme parfait pendant 3-4 ans, je te dis pas, tu ne pouvais pas plus grand, tu ne pouvais pas plus. Ouais, bon, c'est bien. Alors. C'est génial d'être un cancre comme ça.
Alors, nécessité de cette étape pour la guérison, page 8. Page 8, vous avez marqué
oui,
page.
Le titre, qu'est-ce que c'est le titre?
Nécessité de cette étape pour la guérison. Page 8.
Oui, moi c'est différent.
Vous avez une pagination.
Non, non, mais c'est différent parce que moi j'ai le petit.
Donc je recommence. On va à la page écornée. Page écornée d'abord.
Voyons.
Je recommence. Page écornée.
Moi je suis. La page écornée, c'est.
D'accord.
La guérison des ténèbres.
Très bien.
Donc, voilà.
Donc page 1. Je tourne. Page 2. Puis 3. Page 3, il y a. Oui, je choisis l'amour encadré, n'est-ce pas?
Non. Donc, j'ai le... Quel est le mode d'apparition de la conscience de culpabilité?
Merci.
Ça, c'est la page d'avant. Ça, c'est la page 5.
Ah, donc je continue.
Voilà. Donc, quel est le mode d'apparition de la conscience de culpabilité? Page 6, c'est préambule à l'exercice d'anamnèse.
C'est bon, je l'ai. Ouais.
Ensuite, page 7.
C'est bon.
Deuxième exercice d'anamnèse. Page 8, nécessité de cette étape pour la guérison. Pardon. On est en train de faire.
On va les faire après.
De quoi? Là, pour l'instant, on est en train de faire un exercice là. On fera pas tout, bien sûr que non. Attends, s'il fallait qu'on fasse tous les exercices qui sont là-dedans, c'est pas 3 jours qu'il nous faut. C'est 40 jours sans s'arrêter, quoi. Hein. Donc on est obligé de piocher. Hein. Donc je pioche exprès des éléments qui ont été le plus parce qu'on le ferait pour la première fois ensemble, d'accord. Ça vous va. Alors, nécessité de cette étape pour la guérison. Donc la conscience de culpabilité, hein. C'est, on a un sentiment de culpabilité, mais quand même, après un moment, on est dans la lumière. On fait quand même des choses terribles. Hein, c'est vrai. À un moment donné, il y a une certaine maturité à la lumière. Puis on fait quand même un péché, vraiment, une faute, en sachant que c'est vraiment nul, pas bien. Que tu n'es pas content, et moi-même je suis pas content, mais je me fais violence parce que je le fais quand même. Ça va? Alors là, c'est quand je fais quelque chose. Quand il m'arrive des blessures, bon, je subis, etc., mes limites, je fais des fautes, je fais renverser un vase, il se casse par terre, bon, sentiment de culpabilité. Bon, je suis malade, etc. Tandis que quand je fais vraiment. Garçon qui joue dans le sable, hein. Il a 3 ans et demi, je regarde sa personne à droite à gauche, j'ai 5 ans, j'y vais, et je prends une pierre, je donne un grand coup sur la tête, hein, j'ai 5 ans, personne ne m'a vu, t'as raison, avec mon frère, on avait fait ça. Mais ma tante, c'est ma tante, nous avait en garde, hein, à Thionville, dans ses immeubles. Elle nous voyait jouer là. Il y avait un petit garçon qui était avec mon frère. On y va. Il était 2 ans de moins que nous, il devait avoir 5-6 ans, je sais plus. On s'est jeté sur lui, pauvre gosse. Il était tout de suite, on lui a mis du sable dans la bouche. C'était épouvantable, c'était épouvantable. Et puis on est rentré toujours dessus. La tante Maggie a dit, je vous ai brusque pour ça, papa. Conscience de culpabilité. Oui. Bon, mais quelquefois on fait des fautes, on sait très bien que c'est très 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 mal, très très nul. On le fait quand même, bon, pourquoi on ne sait pas, enfin si, on pourrait savoir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? Ah ben c'est pas moi, c'est Bruno, hein. Ah ça c'est pas vrai, hein, c'est Patrick qui a tout fait. Faites tous les deux. Bon. Alors, allons-nous accepter de voir notre péché ou allons-nous refuser de voir notre responsabilité? Si nous refusons de voir notre responsabilité, nous allons rentrer dans les aspects négatifs de la conscience de culpabilité, qui sont beaucoup plus destructeurs que les aspects négatifs du sentiment de culpabilité. Si nous refusons l'aveu dans la conscience de culpabilité, une tristesse sans honte, mais profonde pour nos gestes, nos paroles, son versant négatif va s'établir en nous. Mécanisme de relation fusionnelle, confusion intérieure, notre conscience de culpabilité va nous enfoncer, conduire à un débordement de l'angoisse, augmenter la perte d'identité. L'immaturité spirituelle, l'irresponsabilité dans la lumière. Si la conscience de culpabilité se refuse obstinément à s'avouer, à se confesser, elle pourra même devenir source de folie, de psychose. Il n'y a pas de psychose sans refoulement et enfermement dans la conscience de culpabilité. La logothérapie moderne a pris acte de ce que dans la folie psychotique, la cure doit se préoccuper d'abord de la vérité, d'une inhibition spirituelle du sens, d'une contre-transcendance volontaire.
Qu'est-ce que c'est l'inhibition spirituelle du sens?
Je suis dans la lumière et je fais quelque chose de mal. Et comme je ne veux pas l'avouer, je m'enferme dans quelque chose de totalement différent que le sens de ma vie. Inhibition du sens. Alors, je suis obligé de m'enfermer dans un phénomène psychotique, dans une espèce de... C'est beaucoup plus grave que la névrose, évidemment. Beaucoup plus ennuyeux. Parce que c'est... Je suis rentré dans quelque chose de mal, et comme j'ai voulu le garder pour moi, mais surtout personne ne le sache, et même si on me fait avouer, je dis non, j'ai pas fait ça. Alors, du coup, je suis obligé, sinon je peux plus, sinon j'étouffe, de rentrer dans une non-spiritualité, dans une non-lumière dans ma vie. C'est comme ça, il n'y a pas de psychose, il n'y a pas de péché. Hein. Quand transcendance volontaire, elle est volontaire, elle est lucide, elle est nette, claire. Alors, du coup, là, ça c'est beaucoup plus ennuyeux que la névrose, hein, évidemment. Donc, autre fruit de ce versant négatif, ça c'est un versant négatif quand même, la conscience de culpabilité. Il n'y a pas que des versants négatifs à la conscience de culpabilité. Dieu soit béni, c'est pour ça qu'on va pouvoir faire la logothérapie. Le deuxième dégangement, mais en fait il va y avoir 6 dégangements, mais c'est le deuxième dégangement, évidemment, très important, c'est sûr. Alors voilà, donc voyons un petit peu, je me dégangue de quoi? La confusion intérieure, allez, qu'est-ce qui me lie ça?
Puisque nous refusons d'accepter de voir ce que cette angoisse nous dit de nous-mêmes, nous allons nous rabattre sur des dérives. Boulimie, onanisme, compensation et déviation sexuelle et autres. Le tout se réalisant en raison d'un système de défense, d'un refus de l'angoisse lié à cette conscience de culpabilité refusant de se dire dans l'aveu. La confusion intérieure s'établit en nous entre la dimension spirituelle et la dimension psychologique. Cette indifférenciation du sentiment de culpabilité et de la conscience de culpabilité se repère à travers le comportement que nous avons énuméré maintenant.
Bon, vous n'avez rien compris, c'est évident que vous n'avez rien compris dans ce que je viens de dire, mais ça veut dire qu'on est dans une espèce de confusion. Qui est-ce qui est capable de dire qu'il est complètement névrosé ou complètement psychosé? Est-ce que je suis détruit psychiquement ou détruit spirituellement? la destruction psychique, c'est la névrose, la destruction, la blessure psychique, c'est la névrose, la destruction spirituelle, c'est la psychose. Et les deux se confondent, je ne suis pas capable de dire si je suis de toute façon très mal. Hein. Donc, il y a une indifférenciation entre le sentiment de culpabilité et la conscience de culpabilité qui fait cette confusion intérieure, cette indifférenciation du sentiment de culpabilité et de la conscience de culpabilité. Comment être sûr que je suis dans cette indifférenciation des déraisons négatives de la conscience de culpabilité? Eh bien, ça se repère. Ça se repère comment? Eh bien, ça se repère à travers des comportements que nous allons énumérer maintenant. Moi, je ne peux pas le voir sur moi-même. Mais sur Clamary, sur Wara,
sur
Hélène,
sur Françoise,
je vais le voir. Sur Jeannette, je vais le voir aussi. Vous savez, tout à l'heure, vous avez vu? Tiens, à un moment précis, hein. C'était un moment extrêmement précis. C'est là, vous voyez, c'est justement l'intérêt des sessions, parce que du coup, après, vous faites très très attention. Chaque geste, chaque mouvement, chaque faux mouvement.
Oh, tu lui donnes un coup de botte.
Oui.
Alors, c'est grave.
Oui. Hein? Alors, c'est génial ça, parce que on va. C'est le fait, vous voyez, c'est dans Auschwitz que Rita Frankel a repéré les choses. Hein, donc, le fait d'être à plusieurs fait qu'on voit ses propres dérives négatives de conscience de culpabilité tout seul. Vous pouvez vous analyser tout seul. Vous ne trouverez pas. Mais vous le repérerez sur ceux qui sont là autour de vous. Vous aimez bien. Et du coup, tiens, peut-être qu'après coup, m'arrive finalement des choses à peu près à analogues. Bon. Parfois bon discours. Donc regardez bien ça. Un système de défense, allez-y.
Un système de défense va donc ici élaborer plusieurs types de comportements. Comportements de justification, d'accusation et de condamnation.
Alors attention, je recommence. Donc, alors ici, il faut les connaître presque par cœur. Hein. Je me justifie. Hein?
C'est toujours d'abord.
J'accuse. Je condamne. Et comme je me justifie, il faut bien accès. Mais condamner, du coup, je scotomise.
C'est ça la
question. Cette scotomisation va engendrer la cristallisation. La cristallisation va engendrer le déplacement, puis le rêve, puis sixièmement l'illusion, septièmement la fuite, huitièmement le délire, le déni, dixièmement la résignation, la sublimation. Ah, voyons un petit peu cette cascade extraordinaire de détresse négative psychotique, de la destruction de la lumière de ma contre-transcendance volontaire. Alors, donc la scotomisation, c'est quoi? La scotomisation. Continuez. Alors, quelqu'un qui sait où on en est, quand la scotomisation est un oubli, allez-y. Lisez.
La scotomisation est un oubli. Nous oublions que nous avons mis un voile sur notre responsabilité. Nous oublions complètement
certains événements et certains de nos actes.
Ah, donc vous voyez ce que c'est que la scotomisation ?
La mauvaise foi ?
Non, c'est pas de la mauvaise foi, pas du tout. Mais tu te rappelles pas ?
Oui, on oublie.
Tu te rappelles pas ? Enfin, ma chérie, tu te rappelles pas. Tu te rappelles pas de ce que tu as dit le jour de ton mariage ? Tu te rappelles pas ce que tu as dit ? Je te pisse dessus, ce que tu m'as dit. Enfin, t'es fou, je n'ai jamais dit ça, moi. Je me rappelle absolument pas d'avoir dit ça. J'ai beau chercher, j'ai dit ça. Non, j'ai jamais dit ça. Enfin, je me rappelle pas. C'est peut-être vrai. Mais si, parce que ta sœur, regarde, ton cousin et le témoin, ils l'ont tous entendu. Ah bon, bah, c'est incroyable, je me rappelle pas. Scotomisation.
Et il est sincère. Est-ce que c'est sincère ?
Ah oui ? Ah oui, c'est... Ça n'a jamais existé.
Est-ce que la maladie d'Alzheimer, ça a un lien avec ce voile ?
Ah ben, évidemment, c'est bien. Enfin, ah ouais. il y a des... Mais il y a, attention, parce que ça se lie en même temps à des conversions somatiques, on va le croire. Les conversions somatiques provoquent des dégénérescences cellulaires derrière l'hypophyse, mais qui ne sont pas sans lien causal, bien sûr, avec la conscience négative du conscience de culpabilité. Quelqu'un qui dit les oraisons de Sainte-Brigitte tous les jours, pendant un an, vous le savez, il n'aura jamais Alzheimer. Il deviendra ni aveugle, ni sourd, ni muet. Ah, ouais, attention, il y a d'autres, problèmes qui peuvent se poser. Non. Donc, la scotomisation. Vous voyez, la scotomisation est un outil. Alors, la cristallisation, continuez.
La cristallisation masque notre responsabilité en accusant un événement. Depuis que je suis mariée, rien ne va plus. Ce n'est pas le mariage qui est fautif, mais nous-mêmes. C'est la faute de la communauté. Ou, moi, depuis que je suis entrée dans ce groupe, ça ne va plus.
Vous voyez, la cristallisation... La cristallisation, c'est... Bon, c'est sûr, d'accord, il y a un problème. Ça, il y a un problème.
On dévie sur les autres.
Non, la cristallisation, c'est que, bon, j'ai un problème, mais il se trouve que c'était à peu près au même moment que... j'ai habité à Perpignan et puis on a fait un séjour pendant 2 ans en Espagne. Donc c'est à cause de l'Espagne. C'est à cause de notre déménagement en Espagne.
On trouve un prétexte.
C'est pas, c'est une cristallisation. Cristallisation. Cristallisation, c'est pas la scotomisation. C'est... Voilà. Depuis que j'ai eu ma troisième fille, rien ne va plus.
C'est un événement, en fait. Oui, il y a un événement. Plus d'événements.
Ou un accueil, ou un événement, ou un groupe, ou... Ordinairement, c'est plutôt un groupe, d'ailleurs. Hein.
Et on ne pourra pas le détacher de ça, parce que de toute façon, ça a eu lieu et...
C'est pour me voiler. C'est un mécanisme de défense pour me voiler à moi-même et m'autoriser à ne pas avouer ma faute. C'est des mécanismes négatifs d'enfermement. La défense, c'est plutôt des mécanismes de la névrose, un sentiment de culpabilité. C'est des mécanismes d'enfermement. Donc je cristallise. Vous allez voir, petit à petit, ça va devenir clair. Vous allez voir. Donc le déplacement maintenant,
J'ai un problème avec l'autorité, et même l'autorité a un problème avec moi. J'ai déplacé sur l'autorité un problème que j'ai avec mon père. Je déplace le problème que j'ai à l'encontre de la providence de Dieu et avec ma mère sur la société, la communauté, la famille, l'église. Je sais que j'ai un problème avec mon épouse, avec ma belle-mère, avec la communauté, avec l'église, mais en réalité, c'est ma relation avec la providence de Dieu sous le visage de ma mère que j'ai haïe. L'imagination.
Alors, vous voyez, déplacement. Donc, le déplacement, c'est. Oh, l'église, je ne supporte pas. Je ne supporte pas l'église, Déplacement. En réalité, tu ne supportes pas la providence de Dieu à travers. Que Dieu ait associé sa providence à ta mère. T'as haï Dieu dans le fait qu'il t'ait donné cette mère-là pour te demander un dépassement plus grand. Et ça, ça a provoqué en toi une haine de la providence de Dieu à travers ta mère. Du coup, 30 ans après, tu te déplaces, tu dis, c'est pas Dieu que je hais dans sa providence quand même. Non, par contre, je supporte pas l'église, hein. Un déplacement. Parce que la haine de Dieu à travers la providence divine dans mes parents, c'est quelque chose qui est parfaitement lucide. Hein. Le jour, ça, je vous assure que c'est vrai. C'est une lucidité, la petite. Mais moi, j'en connais une comme ça, extraordinaire. Ce qui est arrivé avec son père à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, c'était. Son père avait joué de toute évidence un rôle maternel vis-à-vis d'elle. Donc, alors, elle ne s'en rappelait plus, mais grâce à. Ça a duré plus de 50, ça a 60 ans, ce qui est venu de là. Que Dieu et son père étaient vraiment très unis. Puis il lui disait quelque chose qui n'allait pas dans le sens de son poil là, c'est dans une lucidité de petite fille. Son père, je ne ferai plus jamais avec toi. Effectivement, ça a été à un point tel qu'elle a été adoptée par une marraine. Et depuis ce jour-là, plus jamais accepté, sans une révolte terrible, tout ce qui allait dans le sens du désagréable. Si elle voyait par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui disait arrête de faire ça, c'est pas bien, dans le sens contraire du poil, c'est honteux, c'est scandaleux. Ressortait tellement. Du coup, forcément, il y a des compulsivités qui correspondantes, aller toujours dans le sens de l'agréable, toujours dans le sens de l'agréable, jamais dans le sens contraire, jamais. Vous voyez ce que ça donne, hein? Et ça, c'est le déplacement. Vous voyez le déplacement? Bon, l'imagination.
Joue avec le rêve, le délire, l'illusion, la fuite, les jeux virtuels.
C'est facile.
L'intelligence réagit par le déni. Nous pouvons aider autrui en le mettant en face de son déni. Dis-moi, en ce moment, tu n'as pas l'air d'aller. Moi, je vais très bien. Nous sommes convaincus que nous ne sommes pas concernés. Nous sommes vraiment dans un monde athée, mais moi, je ne suis pas athée.
je n'ai pas de problème du côté de la foi. Je crois bien qu'il y a quelque chose qui existe. Le déni est facile à repérer.
Oui, alors ça, le déni. Bien, le déni, c'est plus du côté de l'intelligence. Enfin, normal, la christianisation, c'est une réaction du cœur, de la volonté. Hein. Parce que du côté de l'intelligence, c'est le déni. Donc, du côté de l'intelligence, c'est le déni. Je donne toujours l'exemple de mon père, il est mort, donc je peux en parler. Donc, lui, quand il allait se mettre en colère, il y avait une colère terrible, mon père, à table, où il y avait sept enfants, tout ça. Mais il y avait quelque chose qui, dans sa narine, qui frémissait légèrement. Mais c'était à peine visible. Hein. Et maman, ma quatrième sœur, ma troisième sœur, ma Maureen, elle était très douée. Elle percevait que mon père, avec la narine, tu touches encore un petit mot de plus et ah, ça y est. Ça va être horrible. Alors, dès qu'elle perçoit que la narine, elle se soulevait là. Papa! Papa! La narine! Je tournais vers ma Maureen et disais, moi? La narine? Pas du tout. Moi? La narine? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout de narine. Et le déni, c'était moi? Pas du tout. Est-ce que tu as l'air de moi? Pas du tout. T'as pas l'air enfant? Je suis sûr. Moi. C'est facile, le déni, c'est pas facile à repérer. Hein. J'ai les autres. Bien sûr, j'ai les autres, très facile. Voilà. Alors, quand c'est non pas le cœur spirituel ou l'intelligence qui arrive par le déni ou l'imagination par la fuite dans les yeux de l'écran, tout ça, alors c'est le côté mystique qui réagit. Ah, le côté mystique dans la conscience culpabilisée négative, ça fait quoi? Allez-y, la grande mystique de la résignation.
Comme on la trouve dans la mystique du karma et le réglement de la résignation, cette mystique refuge est la spiritualisation de la conscience intime de l'homme par rapport à sa faute. En transposant nos fautes sur un fil antérieur, nous décachons le sentiment de culpabilité et nous recouvrons la conscience de culpabilité dans la résignation.
Ouais, ça c'est facile, mystique. Hein. Bon, allez, c'est mon karma. Ça c'est mystique et mystique du karma, il n'y a pas le terme d'hindouisme, chez les cathos il y a l'équivalent, évidemment. Bon, très bien. Équivalent.
La sublimation est également un problème d'identité.
Ah, ça c'est certain.
Oubliant notre vocation véritable, elle idéalise un type de vie poussée échappée plus avant, aggravant le refus de notre vocation. Le maître de nos fils est là pour discerner si la personne qui arrive se présente à la vie monastique parce qu'elle idéalise la vie monastique comme, par exemple, un refuge par peur du parent du même sexe que lui. Si nous avons eu longtemps peur du parent du même sexe que nous, nous n'avons pas pu nous situer par rapport à lui dans notre identité personnelle. Une personne a eu des échecs avec sa sexualité personnelle ou avec un proche ou à la maternelle. Par exemple, avec un petit garçon dont elle était folle amoureuse et qui lui a donné un coup de poing dans la figure. Drame oublié, mais d'autres drames ont aggravé l'amertume de ce premier échec et elle a peur du mariage. Elle n'a jamais pardonné ce petit garçon et il ne s'est jamais pardonné cette humiliation. Elle idéalise dans la fuite la flux humaine consacrée dans un comportement psychotique de sublimation.
Ah. Traduction. C'est
C'est la résignation, c'est facile à comprendre tout ce qui fuit dans, par exemple, les énergies. Hein? C'est une résignation. Dans le cycle, c'est un autre cycle que celui de la vie spirituelle, hein, donc, la résignation mystique, la résignation, l'hindouisme. Du coup, il y a une espèce de cycle et tout ça. Bon, j'ai un double. Il y a. C'est. Voilà. Donc, ça, c'est mystique. Maintenant, au-delà de la résignation, bon, il y a la sublimation. La sublimation, c'est. Dit, bon, j'ai une haine féroce vis-à-vis de. Parce que bon, bah, j'ai nourri cette haine féroce. Hein. Une haine féroce parce que bon, j'ai été humilié, quoi. C'est peut-être quand j'étais enfant, mais c'est peut-être quand j'avais 20 ans, hein, peu importe, hein, n'importe quel âge. J'avais vraiment une faute de haine féroce vis-à-vis de quelqu'un, supposons. Bon. Du coup, je veux tellement être ne pas prendre la responsabilité de ce que j'ai fait, ou en tout cas de m'en sortir par la demande de pardon, la réparation, l'aveu, etc., que du coup, je m'enferme dedans et en dessous. Et du coup, ben, je ne veux plus avoir aucun type de relation de ce type avec qui que ce soit. Alors, je vais rentrer dans un monastère tibétain. Je vais rentrer dans un carmel. Mais la maîtresse des novices, elle va bien voir que ça, c'est un phénomène de régression métapsychique sacrale, quoi. C'est pas une vocation spirituelle. C'est très, très vite, on va s'apercevoir que là, on a affaire à une fuite spirituelle est perdue, hein, donc c'est facile à repérer quand même. Je veux dire. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, moi, regardez, il y a des gens qui sont dans des compulsivités homosexuelles, par exemple, puis qui rentrent au séminaire. C'est pas bien quand on le constate que de les garder. Facile. Vous voyez, la conscience de culpabilité dans son théorie négative, c'est beaucoup plus fréquent chez les chrétiens que chez les gens athées, parce que les gens athées, leur conscience par rapport à la faute et au péché est très émoussée. Vous voyez. Donc, les phénomènes donc, de dérive négative de la conscience de culpabilité sont beaucoup plus fréquents chez les chrétiens.
Hein.
C'est énorme. C'est normal. Enfin, et puis, attends, on grandit. Je veux dire, si on en reste à la résolution de la sentiment de culpabilité, on reste au niveau maturité, même psychologique, 3 ans et demi. Tandis que, quand même, 7 ans, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que ça. Mais, bon, très bien. Donc, il faut quand même aller aussi au-delà de 7 ans. Hein. C'est pour ça qu'il y a cet exercice pour sortir de ces ans. De différents types d'enfermement. Bon. Voilà. Donc, vous voyez bien, ça, c'est petit à petit, c'est ça l'enseignement. C'est que je regarde ici encore d'autres maintenant. Autres fruits du versant négatif, dis-moi, il y en a. Hein. La relation fusionnelle. Alors là, vous voyez ça tout le temps, souvent. Cette relation fusionnelle, nous régressons en fusionnant avec un type de comportement qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas celui de notre mission, de notre. Un rôle de notre fonction, de notre vocation, de notre identité personnelle. On va perdre totalement sa personnalité en fusionnant à une autre personne ordinairement proche. Et ça, c'est la relation fusionnelle. Ça se voit beaucoup, évidemment, quand c'est sur quelqu'un d'autre. C'est sûr, ça. Comme ça, je ne suis plus moi-même spirituellement, vous comprenez? Puisque je sors de la communion, il faut bien que je rentre en fusionnel. Comme compensation, c'est un superbe enfermement.
J'ai besoin de quelqu'un qui m'enferme en lui-même dans une dépendance ericksonienne. C'est une espèce de d'hypnose, non pas mais d'hypnose intérieure, d'indépendance vis-à-vis d'autrui, je suis en fusionnel. Mais si je ne suis pas complètement autonome dans la lumière de ma dignité spirituelle, dans ma propre lumière, c'est le risque d'avoir la seule côté d'être dans une espèce. Parce que j'ai un manque de lumière, donc je vais rentrer en fusionnel. Ce ne sera pas de l'amitié, ce ne sera pas de la spontanéité. Hein? Pire encore, la folie et les psychoses. Nous rentrons dans l'irréel jusqu'à la folie de la psychose. Donc si nous avons accepté de regarder notre mal en face, de le réassumer dans notre responsabilité, il refait mal. Dès lors, si refusons cette fois le mal que cela nous fait à l'apparition de la conscience de culpabilité, nous sommes tenter de refouler ce mal second à cette prise de conscience spirituelle, le désastre des réactions négatives va générer spontanément le déni, le dépassement, la fuite, le délire, la psychose, la résignation, la sublimation. Du côté de l'intelligence, le déni et le refus de cet écho. Du côté de la volonté, la résignation implose un blocage pour ne pas revoir la réalité en face. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça, c'est fini. Elle nous évite d'assumer notre responsabilité par le cœur. Et la conscience de culpabilité sera positive si nous acceptons de remonter face à la réalité de notre responsabilité. Si nous acceptons de venir à la lumière, de descendre dans l'acte qui exprime notre responsabilité, de l'avouer de manière crue, en toute loyauté et sans détour. Anamnèse spirituelle. Je donne ce que j'ai fait dans sa cruauté. Hein? C'est un résumé d'un résumé de l'enseignement élémentaire le plus. Enfin, hein, voyez, c'est vraiment. C'est pas un bouquin, hein. Mais c'est vraiment le résumé du résumé. Au moins ça, quoi. Au moins repérer. Donc, thérapie du versant négatif de la conscience de culpabilité. Première étape, page 10.
Si nous devenons responsables.
Non, thérapie du versant négatif.
La page suivante.
Thérapie du versant négatif.
Première étape, la prière. Autant pour le sentiment de culpabilité, la prise de conscience de la blessure n'a pas besoin de prière. Il suffit de s'en rappeler. Autant pour la conscience de culpabilité, il faut beaucoup prier, faire oraison, et à un moment, quelque chose va jaillir. D'un seul coup, nous avons dans la prière le flash d'un acte passé. C'est le moment d'aller demander pardon pour ce péché commis il y a 20 ou 30 ans. Peut-être ne l'avions-nous jamais avoué spirituellement. N'avions jamais demandé pardon cordialement pour cette faute. Saint Jean de la Croix dit que c'est pour cela qu'elle nous revient. Quand jaillit une vraie faute, nous rentrons dans l'aveu. Dans le sentiment de culpabilité, nous avions crié notre douleur, nous avions dit que c'était injuste. Nous nous sommes laissés consoler, nous avons accepté de pleurer. C'est psychologique. C'est déjà bien, et il faut passer par là pour accepter d'offrir la souffrance et pouvoir ensuite entrer dans l'aveu. Nous rentrons spirituellement dans l'aveu grâce à la prière, grâce à l'anamnèse. Grâce à l'absolution. Il y a des choses que nous ne pouvons avouer spirituellement qu'après l'anamnèse, parce qu'elles apparaissent dans un nouvel état de grâce et elles se révèlent être des péchés beaucoup plus profonds que nous ne le pensons. Plus un chrétien avance, plus il découvre des fautes de plus en plus graves. Moins il se confesse, plus ce qui lui semble être ses péchés ne sont pas de vrais péchés, mais des réactions de survie à des blessures qui lui ont été infligées. Dans la conscience de culpabilité, nous ne sommes pas nécessairement déculpabilisés, mais nous sommes responsabilisés. En effet, l'effort de l'aveu nous redonne un visage humain dans la grâce du repentir. Cette grâce du repentir se repère en nous lorsqu'il devient clair pour nous que nous sortons de cette tendance misérable à accuser, condamner et rejeter la faute sur les autres. De la même manière, nous sentirons que Dieu ne nous condamne pas, ne nous accuse pas et ne nous culpabilise pas. Cette culpabilisation n'a jamais pu venir de Dieu. L'aveu ne déculpabilise pas, mais le repentir nous fait retrouver le regard de Dieu, un Père qui ne nous culpabilise jamais. Cela devient assez extraordinaire. Troisième étape. Une fois que nous sommes responsables, le repentir nous ouvre à une attitude de constance dans le don et dans le pardon. Des actes de miséricorde, des engagements pour aider les autres dans leur souffrance, enracinent notre état de repentir dans un amour concret. À travers l'aveu et le repentir, ayant trouvé cette miséricorde de Dieu, ce don de Dieu, nous le concrétisons spontanément par des actes. Par exemple, l'état de contemplation et la respiration dans la transcendance nous devient plus aisé. Nous entrerons dans cette nouvelle demeure à la prochaine étape d'une logothérapie ouverte à la sublime transformation de notre vie spirituelle de lumière surnaturelle, la respiration divine de l'image de Dieu que nous sommes. Nous aurons beaucoup à recevoir et à offrir. La quatrième étape de la thérapie du versant négatif de la conscience de culpabilité se caractérise en effet par l'offrande. Nous nous offrons nous-mêmes et nous offrons tout. Au cœur de cette dynamique de l'offrande, nous pouvons tout traverser. Nous acceptons de retraverser à nouveau toutes sortes de problèmes, d'états, d'épreuves, de peurs du monde et de notre prochain, d'angoisses de nous-mêmes. La conscience de culpabilité dynamisée par l'aveu, le repentir, les actes de miséricorde, la responsabilité, l'offrande, est un cadeau dissolvant nos inhibitions et nous fait entrer alors dans le combat spirituel. L'aspect positif du sentiment de culpabilité était comme un frein par rapport aux actes. Nous avons honte d'avoir fait cela, non, nous ne le ferons plus. Au contraire, la conscience de culpabilité réveille comme un dynamisme de dépassement que la logothérapie va préciser et faire grandir.
Exercice pneumato surnaturel. Page 12. Je vais m'approcher de Jésus dans une confession, mais cette fois, du fond de ma confession, du fond de mon aveu, je vais découvrir à l'intérieur de la confession, que je peux très bien me confesser comme ça, mystiquement, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'on fait c'est un prêtre, mais parce qu'on fait c'est mystiquement. C'est ça l'exercice d'ailleurs. Parce qu'on fait c'est mystiquement, on dit voilà. On dit par exemple, voilà, je. Mais en, avec ses lèvres, il faut qu'on entende les paroles qu'on prononce, hein, attention. Même si on est. On va pas parler à un mur, mais on parle à. Je sais pas moi. Quelqu'un qu'on aime bien. Par exemple, je sais pas moi. Curé d'Ars. Ouais, Jésus exposé. Seigneur. Voilà. C'est toi le prêtre. Voilà, je. Je dis à Jésus ouvertement, nettement, clairement. Plutôt que de dire, je suis blessé parce que mon père m'a touché. Confession de Jésus. Je me dis, Seigneur, je vous prie, pardon parce que j'ai fait une. Mais j'ai quelque chose de vraiment qui est pas bien, quoi. J'ai vu de la scotomisation, la justification, l'accusation, la condamnation de l'autre, bien sûr, parce que tout ça, dégagez. Anamnèse. C'était diabolique, je sais pas que c'était diabolique. C'est-à-dire, pardon, j'étais diabolique là. C'était clair, net, précis, j'ai fait quelque chose. Si. Et voilà, j'ai vu. Bon, il n'y a pas que des trucs. Je fais la confession. Mais cette fois-ci, du fond de cet aveu que je fais avec mes lèvres, je dis, monsieur. J'essaie de découvrir dans cette relation que j'ai avec le prêtre éternel à l'intérieur de lui, pendant que je fais cette. Je lui donne cette chose finalement qui est pénible sur le plan spirituel. Ça
Père Jésus prêtre. Libération. Père, à la terre, Jésus aussitôt. Jésus prêtre. Percevoir ça. Si vous percevez ça, ça va. Vous êtes sorti des dérives négatives de la conscience de culpabilité. Compliqué, hein? Franchement, pas compliqué. Hein? Donc, je reprends et on va, voyons comment ça a été formulé. C'est pas tout à fait la même chose que la source de joie, hein, au moment où Jésus meurt. Hein? Vous voyez la différence là? C'est pas tout à fait. C'est autre chose. Hein? C'est un autre exercice et effectivement, ça ne dégomme pas les mêmes choses. Hein? Vous voyez, regardez, donc, voyons un peu comment c'est reformulé. S'approcher de Jésus. Alors là, pareil. Voilà, vous pouvez très bien dire, allez, je vais faire ça 7-8 fois, je vais prendre une bonne 30 secondes là pour le Père. Puis je recommence encore plus profond jusqu'à ce que je perçoive nettement cette racine de paix qui s'engendre dans le prêtre éternel, le prêtre qui me confesse, qui va m'absoudre. Hein. Voyez, regardez, donc vous avez compris ce que je vous l'ai dit comme ça, mais maintenant voyons ce que dit l'écrit. On va voir si ça dit la même chose que ce que je viens de vous dire par voie orale. S'approcher de Jésus dans une confession, mais cette fois, du fond de notre âme, découvrir la paix qui émane alors du Verbe de Dieu, partout, pour toujours et pour tous. L'extrême du mal et sa racine sont détruits. La paix devient son cri dans notre esprit. Voir, contempler, éprouver, entendre, ressentir ou comprendre cette paix comme l'écho de mon union nouvelle avec le Saint-Esprit. Tel sera pour moi le signe du succès de cette étape d'anéantissement de l'aspect négatif de la conscience de culpabilité de son fruit, la folie coupable. Oui, rentre. Allez, rentre. Oui, rentre. Je peux aller la chercher. Épître de Saint Jean, de la blessure du cœur, ils sont trois à témoigner. L'eau, le sang et l'Esprit Saint. L'eau représente le sentiment de culpabilité avec la prise de conscience pour un pardon donné. Le sang, la conscience de culpabilité qui se résout dans la profusion du Saint-Esprit dans un océan de paix. Pour pouvoir nous offrir nous-mêmes dans la grâce, et l'Esprit Saint, émanation éternelle de la confession du Père et du Fils, qui trouve dans la confession du pécheur, au sacrement de Jésus crucifié, de quoi confesser ce qu'il est. C'est extraordinaire ça. Ça vient de là cette paix, parce que dans le prêtre, le Saint-Esprit vient témoigner qu'il confesse ce qu'il est. L'émanation de l'union de la lumière et de la lumière née de la lumière dans l'amour. Alors, je pense, du coup, c'est pour ça que la confession provoque en Dieu une libération, cette profession océanique de la lumière dans l'Esprit Saint. Alors, c'est ça. De percevoir ça, c'est beau. Et d'envoyer l'Esprit Saint, émanation éternelle de la confession du Père et du Fils. Trouve dans la confession du pécheur au sacrement de Jésus crucifié de quoi confesser ce qu'il est. Savoir que notre péché peut être le lieu et l'occasion pour l'Esprit Saint de confesser qu'il est amant dans la blessure du cœur de Jésus. Ça, c'est génial de savoir ça. C'est extraordinaire.
extraordinaire ce que vous avez dans une confession n'empêche. Un sacrement d'absolution. Le sacrement d'absolution et la confession, quand vous faites la confession, vous autorisez à avoir la présence réelle de l'émanation du Saint-Esprit. Il confesse. Il n'y a plus votre péché, il disparaît puisqu'il fait naître la confession de ce que le Saint-Esprit est et confesse qu'il est amour. Passion du cœur de Jésus dans le sein du Père. Votre confession est transformée dans la présence réelle, la confession du Saint-Esprit qui confesse enfin ce qu'il est à travers votre confession. Alors c'est partout, pour toujours et en tous, la paix. Quand vous percevez ça, vous avez le signe que vous avez cette sortie des dérives négatives de la conscience de culpabilité. Ça va? Alors vous pouvez très bien faire cet exercice-là, spirituel, surnaturel et contemplatif, en rentrant à la dernière confession que vous avez faite. N'était pas particulièrement génial dans la cruauté de l'aveu. Alors, bon, je vais. J'aurais dû dire tout simplement. Voilà. C'est vraiment pervers ce que j'ai fait là. C'est pervers. C'est pervers, c'est vrai. Jésus, Seigneur, mon Père. Je confesse, je donne, je m'offre avec ça, je n'ai que ça à offrir. Confession du Saint-Esprit dans la précieuse grâce de Jésus qui remplace tout ça. C'est ça, l'absolution. Une transsubstantiation. Et alors, c'est ça. Mais je le sais parce que. Mais c'est encore mieux si. Je rentre dans la présence réelle, dans le noyau du péché, qui lui-même devient le noyau de la confession du Saint-Esprit, de la blessure du cœur de Jésus. Alors cet océan de paix partout, grâce à mon péché, il y a une nouvelle profusion de cette paix gigantesque de la confession du Saint-Esprit, dans la blessure du cœur de Jésus, partout, toujours et en toutes choses. Je le perçois, ça. Heureuse confession qui vaut une telle transformation. Et je le perçois très très bien, évidemment, que la culpabilité a totalement disparu. Et évidemment, ces dérives négatives pour m'en protéger aussi. Alors, je peux très bien faire ça dans l'exercice du soir. C'est les deux étapes mises à jour par Viktor Frankl, qui n'est pas chrétien, vous voyez, mais quand même, il s'est exprimé dans des exercices qui finalement sont quand même chrétiens, hein, d'accord, bien sûr. Mais c'est Viktor Frankl, ça. Hein. Bon, lui, il fait ça dans une confession messianique, mais bon, ça reste spirituel, lumineux et surnaturel, quand même, il propose. Mais après, il y a la troisième étape pour la pénétration dans le sens de la lumière. La quatrième qui permet d'habiter pleinement cet intellect agent contemplatif. Et la cinquième qui permet d'être entièrement libre dans la lumière. C'est ça, la cour de la vie de métaux surnaturels. Là, on n'a fait que deux premières de base. d'autres occasions, vous pourriez prendre par exemple la dernière étape de la logo. Thérapie pneumato-verbo, pneumato-surnaturellement. Oui, ça va. Ça va, on fait comme ça. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur est à vous. Vous
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.